Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, sur RMC et RMC Story. Il est 6h58, c'est parti pour Apolline Matin. Et vous, une fois vos factures payées, est-ce qu'il vous reste de quoi partir en vacances? Près d'un Français sur quatre n'a pas les moyens de partir une semaine chaque année. Est-ce que c'est votre cas? Comment on fait? Surtout si on a des enfants, évidemment. Alors venez nous raconter au 32-16 et par message sur le WhatsApp d'RMC 06-12-424-424. Et puis on découvre ce matin une nouvelle conséquence de la guerre au Moyen-Orient, là. Consommation est en baisse en France. Centres commerciaux, magasins de bricolage, boutiques de vêtements, les allées sont vides. Face à l'augmentation des prix du carburant, les Français font des arbitrages. À 8h30, je reçois le patron des magasins U, Dominique Schelcher. Il a rejoint la fronde contre le projet du gouvernement d'encadrer les marges des stations-service. Lui, il en possède 1000 des stations-service. Alors je veux bien qu'il soit contre le projet du gouvernement, mais en même temps, il va bien falloir quand même que les prix baissent. Comment? Quand? Réponse à 8h30 sur RMC et BFM TV. Et puis justement, journée exceptionnelle sur RMC. On est à vos côtés depuis 5h ce matin et toute la journée. RMC vous fait gagner votre plein d'essence toutes les demi-heures. 120 euros toutes les demi-heures. Toutes les 30 minutes un plein d'essence. Soyez bien à l'écoute. RMC, la radio du pouvoir d'achat à vos côtés. Il est 6h59. Dans une poignée de secondes, ce sera le journal de 7h. Mais d'abord, la météo et Géraldine, il fait beau.
Ah oui, c'est une belle journée de printemps, hein, vraiment, pour aujourd'hui. Il y aura du soleil pour tout le monde. Alors vraiment, toute la journée, si vous êtes au sud de la Loire, au nord de la Loire, il peut y avoir un peu de grisaille ce matin. Il y a pas mal de brouillard, notamment dans l'ouest. Ça va se dégager. Il y aura de très belles éclaircies cet après-midi avec quelques petits cumulus, mais qui seront pas gênants. Les températures sont en hausse. Et ce, dès ce matin, on a des températures qui vont être au-dessus des normales de saison. 18 à Lille, ça ce sera pour cet après-midi. 19 à La Rochelle, à Nantes, 20 à Paris, 21 à Lyon. Il fera 23 à Bordeaux, 24 à Marseille. Et jusqu'à 25 pour Perpignan.
Il est 7h, merci de vous réveiller avec RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un très long calvaire, les mots du procureur de Mulhouse pour qualifier la séquestration du petit garçon de 9 ans, resté plus d'un an dans une camionnette en Alsace, enfermé par son père retrouvé la semaine dernière, nu et dénutri en privation de soins. La très contestée loi Yadan visant à contrer les formes renouvelées d'antisémitisme au programme des députés aujourd'hui et demain. Et le Bayern Munich sur la route du PSG pour se hisser dans le dernier carré. Les Bavarois ont dû écarter le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions hier soir. 4-3.
Il a vécu l'enfer.
Ce petit garçon de 9 ans, retrouvé la semaine dernière à Hagenbach dans le Haut-Rhin, séquestré un an et demi dans une camionnette par son père, Julie Brault du service police-justice. RMC, l'enfant a été entendu, il s'est confié aux enquêteurs racontant l'horreur qu'il a vécue.
Oui, le petit garçon s'est longuement confié à deux enquêtrices spécialisées. Il leur a assuré que c'est à cause de sa belle-mère qu'il a été séquestré dans la camionnette, car elle menaçait de le placer en hôpital psychiatrique, a indiqué le procureur de Mulhouse.
Il expliquait avoir de très mauvaises relations avec sa belle-mère, qu'il qualifiait, je cite, de sa pire ennemie et de méchante. Il expliquait, je cite toujours, « Vu que mon père n'avait pas envie que je finisse dans un hôpital, il a dû me mettre dans la camionnette. » Et encore de dire que son père n'avait pas le choix.
L'enfant, retrouvé complètement nu et dénutri, ne pouvait pas tenir debout. Selon lui, son père lui apportait de l'eau et de la nourriture deux fois par jour, mais ses conditions d'hygiène se sont dégradées au fur et à mesure.
Il disposait d'un baluchon de vêtements et il devait uriner dans des bouteilles vides. L'enfant indiquait cependant que son papa ne lui lavait plus les vêtements et ne disposait plus de brosse à dents.
L'enquête doit désormais préciser le niveau de responsabilité de chacun et notamment déterminer si d'autres personnes avaient connaissance de la situation sans pour autant porter secours au petit garçon.
Elle a recueilli plus de 700 000 signatures. La pétition contre la proposition de la loi Yadan, rejetée par l'Assemblée nationale. Les députés vont donc se pencher aujourd'hui et demain sur le texte très contesté, proposant de répondre à l'explosion des actes antisémites et de lutter contre ces nouvelles formes soutenues par le gouvernement, mais rejetées par la gauche et une partie du bloc central. Le malaise est palpable. Beaucoup évoquent un texte flou et redoutent, Cyprien Pézril, une confusion entre antisémitisme et antisionisme.
Oui, le texte crée une nouvelle infraction, la provocation à la destruction et à la négation d'un État. En clair, interdire les appels à la disparition d'Israël, considéré comme une forme nouvelle d'antisémitisme. Mais derrière cet objectif, il y a la crainte que cette définition puisse être interprétée trop largement devant les tribunaux, même si les défenseurs du texte promettent pourtant que chacun sera libre de contester la politique de Benjamin Netanyahou. Alors pour s'en assurer, en commission, les socialistes ont voulu que ce soit écrit noir sur blanc dans la loi et autoriser, je cite, « la critique même vive d'un État et de sa politique ». Sauf que cet amendement, il a été rejeté. Voilà pourquoi il y a selon eux un risque d'atteinte à la liberté d'expression, une sérieuse menace, s'inquiète même la Commission consultative des droits de l'homme, pour qui des propos sans lien direct avec l'antisémitisme risquent donc d'être visés.
RMC, il est 7h03. Les dirigeants libanais et israéliens vont se parler aujourd'hui. C'est ce que dit Donald Trump au lendemain des premiers échanges depuis plus de 30 ans entre les deux pays à Washington. La Maison-Blanche qui ne ferme pas la porte à un deuxième cycle de négociations avec l'Iran à l'heure où Téhéran réfléchit à bloquer le trafic en mer Rouge en réponse au blocus américain du détroit d'Ormuz.
Et puis les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur l'économie mondiale, la France n'est pas épargnée.
Preuve en est ce chiffre de la Fédération Procos que vous révèle RMC ce matin de la consommation dans les enseignes non alimentaires, dont les ventes ont baissé de 4,7% le mois dernier par rapport à mars 2025. Les Français contraints à des arbitrages face à la flambée des coûts de l'énergie. Un problème de plus quand on sait que l'an dernier déjà, le taux de privation matérielle était de 13% en France. Résultat d'une étude de l'INSEE, renoncer à acheter des protéines animales, à chauffer ou encore partir en vacances, ne serait-ce qu'une semaine par an. Un Français sur quatre est concerné pour certains. Le scénario se répète année après année. Reportage à Beauvais, Antonin Audion.
Pendant les vacances scolaires de ses deux filles de 6 et 8 ans, Igor a choisi de les emmener au parc.
Avec les enfants, on n'est jamais parti en vacances. On essaie de s'occuper comme on peut. Mais j'aurais promis, dès que je récupère un véhicule, je les emmène à une plage.
Ni plage, ni montagne pour Sarah, question de budget.
Pas de vacances de prévu, pas de départ en vacances en tout cas. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir une maison, payer un crédit, que les enfants ils puissent faire un sport, qu'on puisse payer les soins. Hier, j'avais l'orthodontiste, c'est 1050 euros qu'il faut sortir. Bah, c'est des budgets qu'après, on ne met pas ailleurs. Donc, il faut avoir des priorités. Les vacances n'en font pas partie, non.
Parce qu'elle voit son pouvoir d'achat se réduire, Alicia est partie en vacances pour la dernière fois.
Il y a 2 ans, j'avais trouvé en particulier pour 10 jours 650 euros quand même. Après, quand on compte l'essence, le péage et tout, ça revient très cher. Et là, vu le prix de l'essence, à mon avis, c'est pas cette année qu'on va pouvoir partir encore.
La flambée des carburants contraint un Français sur trois à renoncer à partir en vacances ou en week-end, selon un sondage Elab pour BFM TV publié hier.
Vous, une fois vos factures payées, est-ce que vous réussissez à partir en vacances? Appelez-nous au 3216 pour partager.
670 salariés dans la crainte du groupe Fibre Excellence, dernier producteur de pâte à papier marchande en France. Le groupe qui détient 2 usines sur le territoire s'est déclaré en cessation de paiement. Hier, l'activité se poursuit dans l'attente d'une décision de justice. Reportage à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, sur l'un des sites concernés. Jean-Wilfried Forquès.
À l'heure du déjeuner, le risque d'une fermeture prochaine de l'usine inquiète les habitants.
Une activité qui s'arrête est dramatique.
J'ai l'impression que ça va fermer. Et c'est bien regrettable parce que c'est quand même une véritable institution. Il y a beaucoup d'emplois.
L'usine de Saint-Gaudens compte 270 salariés, tout comme celle de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, et génère 5000 emplois indirects. Laetitia Carlier est la gérante d'un restaurant dont une bonne partie des clients travaillent pour Fibre Excellence.
Au moins 30% de ma clientèle. Des gens que je livre tous les jours, des gens qui font des soirées, qui font des anniversaires.
Des générations de Saint-Gaudinois ont travaillé à l'usine de pâte à papier. C'est le cas de Sébastien Oustric, délégué syndical CGT.
J'ai passé plus de temps dans cette usine qu'avec ma famille. Donc aujourd'hui, mon père y a travaillé quasiment 30 ans, même plus peut-être. Moi, 30 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont inquiets. Ça fait des mois de moins que ça dure.
Pourtant, le responsable syndical veut garder espoir, tout comme le maire Jean-Yves Duclos.
Je suis certain que cette usine est rentable avec une diversification à faire dans les mois à venir pour pouvoir pérenniser à long terme cette activité.
Le 27 avril prochain, le tribunal de commerce de Toulouse devra se prononcer sur la poursuite ou non de l'activité.
Le Bayern Munich rejoint le Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les Bavarois se sont qualifiés hier soir à l'issue d'un match complètement fou. Victoire 4-3 face au Real Madrid de Kylian Mbappé éliminé. Les Allemands ont donc rendez-vous avec le Paris Saint-Germain. Ce sera le 28 avril au Parc des Princes pour ce match aller des demi-finales de la compétition. L'impatience, vous allez l'entendre, monte déjà pour les supporters parisiens. Partagez, Corentin Roland, entre excitation et fébrilité.
Au milieu des Munichois, dans un bar du nord de Paris, Sacha, supporter du PSG, observe le futur adversaire des Parisiens.
Moi, en tout cas, ça me fait peur, parce que c'est l'équipe la plus cohérente dans le jeu.
Un duel au sommet de ces demi-finales de Ligue des Champions attend Paris, tenant du titre, et le Bayern. Les Allemands ont renversé le Real 4-3 hier et sont la meilleure attaque d'Europe cette saison. Jules supporte le PSG depuis son enfance.
Le Bayern, ils sont très forts depuis le début de la compète. On va avoir un très gros match avec probablement les deux meilleures équipes d'Europe actuellement.
Le danger numéro 1 bavarois est ciblé et il est français.
Olise, il fait très mal sur le côté droit.
Michael Olise fera face au Ballon d'Or Ousmane Dembélé et sa bande. Et si les Parisiens se sont inclinés contre le Bayern en novembre, cela n'inquiète pas les supporters.
Je reste quand même assez serein, on a un très bon collectif.
C'est des phases finales, il y a beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de tensions. Et on sait que le PSG est très fort dans ces moments-là.
La demi-finale aller aura lieu à Paris, le retour à Munich, où il y a un an, le PSG a décroché sa première Ligue des Champions.
Et l'autre demi-finale opposera Arsenal à l'Atlético Madrid. Une place dans le dernier carré d'une Coupe d'Europe, ce serait historique pour Strasbourg opposé à Mayence ce soir, Ligue Europa Conférence. Les Alsaciens partent avec 2 buts de retard dans cette rencontre à vivre dès 21h sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08 et attention, journée spéciale.
RMC défend votre pouvoir d'achat.
Journée spéciale sur RMC, toute la journée, toutes les 30 minutes, RMC vous offre votre plein 120 euros d'essence. Vous envoyez tout de suite plein au 7-32-16, plein au 7-32-16 et 15 minutes pour jouer. Il y a un gagnant toutes les demi-heures, 120 euros d'essence, toutes les demi-heures à gagner sur RMC, la radio du pouvoir d'achat. Il est 7h09.
75 centimes par SMS, 2 SMS maxi.
Et si la solution c'était le train, mais un train moins cher, divisé par 2 les prix des billets de train, c'est votre parti pris. Cyrielle Châtelain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée. Le train pour pallier au carburant trop cher, c'est votre parti pris. Vous le défendez dans un instant et je vous attends vous au 32-16. Avez-vous les moyens de partir en vacances? Et si on divisait par 2 le prix du train, est-ce que vous changeriez vos habitudes? Je vous attends au 32-16. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 sur RMC et RMC Story. Presque 300 euros aller-retour pour un Paris-Marseille cet été. 75 euros simplement un Toulouse-Perpignan en TER. On le sait tous, les prix des billets en France sont chers. Des billets de train, bien sûr. Et face à ce constat et en pleine crise des carburants, il faut diviser par 2 le prix des trains. Voilà votre proposition, Cyrielle Châtelain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée et vous êtes présidente du groupe écologiste à l'Assemblée. On est tous d'accord, évidemment, que ce serait beaucoup plus sympa que le train soit moins cher. Mais on fait comment?
Ah ben, comment on fait?
Qui paye?
C'est ça. Ben, la question, c'est l'argent. Et sur les trains, en plus, on a deux opérateurs, si on veut. On a les régions et on a la SNCF. Pour nous, notre hypothèse, c'est que si on baisse les tarifs, on aura une hausse de la fréquentation. Donc déjà, il y a une partie de l'argent qui va rentrer parce qu'on prendra davantage le train plutôt que de
donc
le faire payer plus cher.
Ce sera des billets moins chers, mais il y en aura plus vendus.
Tout à fait. Et ce qui se passe en Centre-Val-de-Loire ou en Franche-Comté, où globalement les tarifs sont moins chers, c'est qu'on voit que la fréquentation est plus forte. Donc c'est une hypothèse qui est solide. Par contre, si on veut que ça se fasse, il faut que l'État joue son rôle et dise « Ok, vous prenez un risque, s'il y a de la perte, c'est pour moi ».
Donc que l'État soit en quelque sorte garanti qui soit la caution de cette baisse des prix. Après, il y a quand même un problème. Moi, je veux bien que plus on baisse les prix, plus on en vende. Mais les trains, ils sont très souvent complets déjà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent à ne pas pouvoir prendre de train, y compris pour fin mai, pour juin, ils nous le disent. Donc, jusqu'à un certain point, en vendre plus.
Alors, c'est pas le cas sur les TER. Là, si on est sur des mesures d'urgence face au pouvoir d'achat, la question, c'est comment je vais au travail. Et donc, c'est ces lignes du quotidien. Aujourd'hui, le taux de remplissage des TER, c'est 25%. Donc, on a de la capacité en plus. Pas sur toutes les lignes. Hein. Moi, j'ai fait le Grenoble-Paris. Il y a des heures, c'est très compliqué. Mais en fait, s'il y a des capacités à mettre plus de rames, déjà, on l'a vu, et deux, vraiment, 25% de taux de remplissage du TER, c'est très faible.
L'idée, c'est donc à la fois vertueux sur le pouvoir d'achat et vertueux, évidemment, sur l'environnement.
Tout à fait.
Est-ce que vous pensez vraiment que les Français sont prêts à changer leurs habitudes? On les sait très attachés à leur voiture et à la liberté que ça leur procure.
Alors, premièrement, les études démontrent que le prix est le premier blocage pour prendre le train. Donc, un train moins cher, ça peut permettent à des personnes qui se disent « je voudrais bien prendre le train, je peux pas » de le faire. Deuxièmement, ça répondra pas à toutes les questions. Il y a des endroits où on a fermé des lignes, où il y a plus de capacité à prendre le train, et c'est pour ça qu'on a aussi des propositions sur la question de la voiture, que ça soit un parc social électrique à 1 million de voitures, ou sur la question du blocage des marges des raffineurs. Donc bien sûr, ça ne répond pas à tout, mais pour changer les habitudes, il faut que le prix soit pas un blocage à la porte d'entrée vers le train.
Christelle nous a appelé du Loiret. Vous êtes à Olivet. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Christelle, vous êtes responsable dans un entrepôt et vous êtes au bord du craquage à cause des prix du gasoil. Vous le dites comme ça, hein?
Oui, je le dis clairement.
Comment ça se manifeste? Vous en pouvez plus?
Bah non, parce que tous les jours tout augmente, on entend tout et n'importe quoi dans les journaux et notre gouvernement qui fait tout ce qu'il veut et qui entend personne. Donc je pense qu'à un moment donné, après les gilets jaunes, il va y avoir le burn-out du gasoil. On va tous se mettre en arrêt de maladie, parce que nous qui travaillons tous les jours, qui rapportons de l'argent à l'État, on paye toujours et toujours et encore et encore.
Quand vous dites burn-out du gasoil, vous prenez la voiture tous les jours, tout le temps, vous en avez besoin?
Tous les jours, c'est ça.
Combien de temps pour quel type de trajet?
Bah, je vais dire 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Donc le gasoil, la voiture, faut bien qu'elle roule. Pour qu'elle roule, il faut bien que je mette du gasoil. À 2,25€ au moins cher ou à 2,50€ au plus cher, bah, on fait vite les comptes. Hein. Je devais partir une semaine au mois de mai, je pars pas.
Vous avez renoncé à partir?
Ah bah oui.
Vous ferez quoi? Vous allez rester à la maison?
Ah bah on va rester à la maison, puis on va essayer de moins consommer. Comme ça, l'État, ils vont comprendre un peu ce qui se passe.
Vous deviez partir où? Vous deviez partir où? Vous envisagez de partir où, Christelle?
Dans le Var.
Alors si le train est moins cher, est-ce qu'éventuellement vous pourriez y aller en train?
Nous sommes une famille de 4.
Oui.
Donc 4 billets de train pour aller dans le Var. Déjà de chez nous, dans le Loiret, il faut que je prenne 2 trains. Ensuite, arriver sur place pour pas être tributaire de tout le monde, il faut que je loue une voiture. Ma liberté, c'est ma voiture. Donc qu'ils entendent ou qu'ils n'entendent pas, on est libre quand on roule avec notre voiture. On veut rouler en voiture. C'est un choix qu'on a fait, qu'on parte en gasoil, en essence ou ce qu'on veut. On doit pouvoir être libre de nos mouvements.
Vous voulez pouvoir être libre de vos mouvements? Je voudrais que vous puissiez répondre, Christelle Châtelain. Ariel Châtelain, à Christelle.
Déjà, ce qui se passe là, le fait qu'aujourd'hui, liberté égale voiture, c'est un choix qui a été fait, mais depuis des années. C'est-à-dire qu'on a un État qui a...
C'est pas le choix de Christelle,
c'est un choix du gouvernement et qu'elle subit de désinvestir sur toutes les lignes. C'était les fermetures des petites lignes de train. Elle le dit maintenant, il faut qu'elle prenne 2 trains. Ça a été le désinvestissement pour accompagner les collectivités dans les transports en commun. Donc déjà, c'est un choix subi.
Et en même temps, Christelle a raison. Si elle arrive sur place dans le Var et qu'elle a pas de voiture, comment vous voulez faire?
Oui, mais avant, il y avait des lignes de train un peu partout qui ont été déconstruites. Deuxièmement, il y avait des bus, il y avait des transports en commun. C'est un maillage qu'on a détruit. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on en est à cette étape-là et ça va mettre du temps pour reconstruire. Donc, il faut commencer par descendre les prix. La deuxième chose, effectivement, là, ce qui se passe, c'est inacceptable sur les prix. Parce que c'est toujours la même chose. On parlait des gilets jaunes, mais après, il y a eu le Covid. Après, il y a eu la guerre en Ukraine. Les prix flambent et on revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, il y en a qui s'en mettent plein les poches et il y en a qui galèrent. La dernière fois, il y avait une loi d'urgence. 2022, la première loi qu'on a étudiée, c'était une loi d'urgence. Il faut une loi d'urgence. Il faut un projet de loi de finances rectificative pour aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire sur les super profits, et le remettre là où il y en a besoin.
Christelle, vous demandez quoi? Vous demanderiez quoi pour éviter ce burn-out du gasoil, comme vous dites?
Que l'État, ils arrêtent de s'en mettre aussi plein les poches, parce qu'on en est là aujourd'hui, et je pense qu'on pense tous la même chose. Ils arrêtent de garder leurs taxes pour eux, pour renflouer les caisses, parce que d'ici un an, certains vont partir, il va falloir justifier, bref. Qu'ils arrêtent de se renflouer, qu'ils nous laissent notre gasoil à 1,49 ou à 50. Tout le monde va vivre correctement, tout le monde continuera à aller au travail et il n'y aura plus ces plaintes. Mais quand j'entends le gouvernement qui dit non, surtout pas ces taxes, surtout on ne peut pas les diminuer, on ne peut pas, le trou de la sécu va s'agrandir, je suis désolée. Qui va justifier?
Parce que vous dites, si on continue comme ça, je vais tomber en arrêt maladie, quoi.
Je vais pas. En fait, Apolline, je suis désolée de le dire, mais est-ce que moi je vais payer demain pour aller travailler? Est-ce que moi je dois payer pour aller travailler? Parce qu'on en est là.
C'est exactement la question. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir témoigné, Christelle. Et merci à vous, Cyrielle Châtelain. Vous êtes donc la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée. Vous l'affirmez, il faut, au moins pour un temps, et à la fois pour changer les habitudes et pour répondre à cette hausse des prix du carburant, divisé par deux le prix des trains. Merci à vous. Il est 7h19 sur RMC. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour, Arthur.
Bonjour, Apolline.
Arthur, vous revenez ce matin sur la Corée du Nord, une dictature de père en fils depuis 1948.
Oui, une dictature où il est même interdit de fêter son propre anniversaire, hein, puisque le seul anniversaire qu'on peut fêter, c'est celui du dirigeant Kim Jong-un.
Vous nous le dites dans un instant. Il y a aussi Arnaud Demange qui arrive pour pirater le face-à-face. Mon invité ce matin, justement, on parlera prix des carburants. Il a 1000 stations essence sur le territoire. C'est Dominique Schelcher, le patron des magasins U. Ne bougez pas, il est 7h20. On se retrouve dans 60 secondes.
RMC, Apolline Matin.
Très bon réveil à tous, il est 7h21, merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin, notre historien Arthur Chevalier. Arthur, hier, l'Agence internationale de l'énergie atomique a tiré la sonnette d'alarme à propos de la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle y constate, je cite, une augmentation très inquiétante des capacités du pays à produire des armes nucléaires.
Eh oui, des armes qu'en fait, techniquement, la Corée du Nord sait déjà produire depuis 2017. Hein. Cette année-là, ce pays avait surpris tout le monde avec un essai nucléaire réussi. L'explosion équivalait à 16 fois celle de Hiroshima. Hiroshima, c'est la bombe atomique lâchée par les Américains sur le Japon en 1945. Alors évidemment, on ne les laisse pas faire. Les Coréens sont sous sanctions de l'ONU pour les empêcher de produire des bombes à grande échelle. Des sanctions qui ne sont pas respectées, puisqu'une chose est sûre, la production nucléaire coréenne tourne à plein régime.
Rappelons que la Corée du Nord est une des dictatures les plus meurtrières.
Oui, le mot est faible. Apolline, à la Corée du Nord, c'est un pays fondé en 1948 par un homme qui s'appelait Kim Il-sung. Et à la base, c'était une dictature communiste comme il y en avait tant d'autres à l'époque. Sauf que ce régime va survivre à tout, y compris à l'effondrement de l'URSS. Petit à petit, il va se couper du monde en s'enfonçant dans la pauvreté avec un régime sanguinaire.
La Corée du Nord va surtout accumuler un retard économique dramatique.
Oui, au point de connaître une famine atroce dans les années 1990, hein, une époque effroyable où entre 500 000 et 2 millions de Coréens ont trouvé la mort. Ce qui s'est passé là-bas est presque inimaginable. Les gens se nourrissaient de rats, de grains de maïs récupérés dans des bouses de vaches. Il y a même eu beaucoup de cas de cannibalisme. Je le répète, c'était dans les années 90, donc il y a 30 ans. Hein.
La Corée du Nord, c'est aussi une dynastie de dictateurs.
Et oui, tous de la même famille. Cette famille, c'est la famille des Kim. Le fondateur, on l'a dit, c'était Kim Il-sung. Son fils, Kim Jong-il, lui a succédé en 1994. Et en 2011, c'est Kim Jong-un, le petit-fils du fondateur de la dynastie qui a pris le pouvoir. C'est l'actuel dirigeant. Il a aujourd'hui 42 ans.
Sa particularité, c'est qu'il est complètement paranoïaque.
Alors oui, son obsession, c'est de ne laisser aucune trace ADN là où il passe. Hein, quand il est à l'étranger en voyage, il se déplace toujours avec ses propres toilettes, à l'hôtel, y compris dans les palaces. Il dort dans un lit de camp qu'il apporte avec lui. Un avion cargo avec sa propre nourriture le suit partout. Et quand il est à un dîner officiel, avec un autre chef d'État par exemple, des officiers de sécurité récupèrent les assiettes, les verres, les couverts, tout ce qu'il a utilisé à la fin du repas, confisqué. Tout ça dans un même but, ne laisser aucune trace, ni cheveux, ni poils, ni salive.
À quoi ressemble le quotidien des Nord-Coréens?
En gros, vous pouvez rien faire du tout. Hein. C'est interdit d'aller chez un ami ou un membre de votre famille sans prévenir la police au préalable. Interdit aussi de fêter votre propre anniversaire, puisqu'on ne peut fêter que l'anniversaire de Kim Jong-un. Et si vous n'obéissez pas, naturellement, vous êtes envoyé dans un camp. Des camps, puisque d'après les rapports officiels, les conditions de détention dans les camps prisonniers nord-coréens sont parfois pires que celles des nazis. Un enfer sur terre, Apolline.
Effrayant. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Pour réécouter vos chroniques, vous le savez, c'est à tout moment le podcast sur le site et l'application RMC. 7h24, un peu de légèreté, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour.
Tout à l'heure sur RMC, BFM TV à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera le patron des magasins U, Dominique Schelcher.
Oui, et c'est donc le retour de notre grand jeu. De quoi va nous parler l'invité? De quoi va-t-il nous parler? Home. Alors hier, je vous avais donné 4 propositions. Vous aviez gagné un écran plat, Apolline. Aujourd'hui, c'est une bourriche d'huîtres qui est en jeu.
Ah.
Alors, notre invité va-t-il nous parler de l'évolution du rôle du chien dans le cinéma français, de faire valoir comique un révélateur existentiel?
Non.
C'est un débat de niche, mais c'est intéressant. Le manque d'inspiration sur les des humoristes sur le prix des carburants après 49 jours de conflit.
C'est très intéressant.
Petit C, le port du crop top chez les boomers et son influence sur la santé de la rétine des vacanciers. D, le prix de l'essence. C'est pas facile,
yes,
hein. C'est pas facile. Vous avez gagné une bourriche d'huîtres, Apolline. Dominique Schelcher est le patron des Super U, Hyper U, Resto U, du Détroit Dorme U et une série de stations-service où on achète rien parce que tout est bloqué. L'État veut encadrer la marge des distributeurs d'essence. C'est surtout le PDG de Total qui va encadrer son bilan comptable du mois de mars, lui l'accrocher au-dessus de son lit. Lui, franchement, Patrick Pouyanné, il doit être en mode Homer Simpson. Pinaise, c'est une jolie marge. Ouh. Il appelle marge. C'était débile, mais ça m'a fait rire.
Oui, bah moi aussi, ça m'a fait rire, Arnaud, j'adore. J'achète.
Donc là, le gouvernement.
Ça vous a troublé un peu, hein, un petit peu, ouais, ce petit marge.
C'est tous ces petits compliments gentils. Là, le gouvernement regarde du côté des distributeurs, ce à quoi les distributeurs répondent, bah, on n'en fait pas des marges. Ce à quoi le gouvernement répond, bah merde, du coup, on fait quoi? Ce à quoi les Français répondent, si on baissait vos taxes, le gouvernement, ce à quoi le gouvernement répond, bah, on n'a pas une thune, on est à 3 800 milliards de dettes. Demandez aux distributeurs de baisser leurs marges. Ce à quoi les distributeurs répondent, hein? Vous êtes cons, quoi? Donald Trump a annoncé que la guerre était presque finie. Alors tiens, à Pau, hier, j'ai écouté votre interview avec l'expert en géopolitique Antoine Bazbouze. Vous vous demandiez tous les deux, peut-on croire Donald Trump? Eh bien, la réponse est non. Voilà. L'analyse est finie. Voilà, voilà.
Vous faites quoi à 8h30, Arnaud, demain?
Non, mais hein, je peux non, dire, parce que. C'est fini. Sinon, vous faites quoi ce week-end? Voilà. Moi, c'est l'anniversaire de ma belle-mère. Au prix de l'essence, je sais même pas si je vais y aller. Bref, on n'aura peut-être même pas d'essence pour les vacances. Les compagnies aériennes doublent leur prix à cause du kérosène. On va devoir voyager léger. Hein. On sera pesé avant. Les bagages, on aura droit à un sac banane avec une brosse à dents. Heureusement que les trains fonctionnent à l'électricité. Et que c'est pour ça qu'il faut payer 500 euros pour un Paris-Montpellier. Vous en parliez avec Cyrielle Châtelain tout à l'heure. Macron voulait nous enlever un jour férié. Et ben Trump va arriver à nous supprimer toutes les vacances. Rendez-vous avec un moment optimiste. Dominique Schellcher à 8h30.
C'était Arnaud Demanche, il est 7h27. Et d'ailleurs, tiens, n'oubliez pas, Arnaud Demanche, on le retrouve à 8h20. Et Nicolas Canteloup, tous les jours, après le face-à-face, ce sera à 8h50 sur RMC. Il est 7h27, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et à la une, c'est aussi ces Français qui n'ont pas les moyens, justement, de partir en vacances. On vous attend au 32-16. Il est 7h29 et il fait beau, Géraldine.
Oui, ou il va faire beau si c'est pas encore forcément le cas tout de suite ce matin. Parce que c'est vrai qu'au nord de la Loire, il peut y avoir de la grisaille. Il y a des brouillards, notamment dans l'ouest. Mais en journée, ça va bien se dégager. Il y aura très belles éclaircies, quelques petits passages nuageux qui seront sans conséquence, hein, quelques cumulus classiques à cette période de l'année. Au sud de la Loire, plein soleil, hein, toute la journée. Puis les températures qui grimpent dès ce matin. Cet après-midi, on sera 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, avec 18 à Lille ou Rouen, 20 à Paris, Clermont-Ferrand, 21 à Lyon, Strasbourg, 23 à Bordeaux, 24 à Marseille, jusqu'à 25 pour Perpignan.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Renoncer à son indemnité de maire pour renflouer les caisses, c'est l'engagement du maire du Creusot en Saône-et-Loire. Les dirigeants libanais et israéliens vont-ils se parler aujourd'hui? C'est en tout cas ce qu'affirme Donald Trump. Et puis une salle de sport ouverte toute la nuit sans employés, ça sera possible dès le mois prochain.
En Saône-et-Loire, le maire du Creusot renonce à son indemnité.
Et oui, 5 600 euros bruts par mois qu'il prévoit de réinjecter dans les services publics locaux. Alors ce n'est pas le seul, hein. Même décision des maires de Pamiers en Ariège ou de Lormont en Gironde. Charles Landre, le maire du Creusot, assume lui vouloir créer le débat. Il s'est confié à Amélie Courté pour RMC.
Renoncé à son indemnité, Charles Landre, nouveau maire du Creusot, en avait fait une promesse de campagne.
Mon geste, c'est aussi une manière de provoquer à la fois un électrochoc sur les dérives qui peuvent exister, de cumul des indemnités, des fonctions et des remboursements de frais, et de créer le débat sur ce que doit être la juste indemnisation d'un élu. Et je dis bien que les indemnités, c'est quelque chose de nécessaire.
Un geste qui va permettre de faire 30 000 euros d'économie à la commune cette année. Le maire, qui dirige toujours une entreprise en parallèle, a également diminué les indemnités de l'ensemble des élus du conseil municipal.
Je dis aux habitants que nous sommes les premiers à faire des efforts nécessaires pour équilibrer les comptes publics.
Les habitants, justement, qu'en pensent-ils?
Tout travail mérite salaire, ça ne me gênait pas qu'ils gardent une indemnité. Ça m'aurait plus gêné qu'ils prennent le parti de l'augmenter. Maintenant, s'asseoir dessus, entre guillemets, bon, est-ce que c'est la démagogie?
Pourquoi pas? On va dire que c'est novateur. C'est un peu surprenant. Voir à quoi ça va servir.
Ce qu'ils attendent surtout, c'est de voir les actions que le maire va mener.
Les gens viennent travailler, mais n'habitent pas ici. C'est fort dommage.
Pour rendre leur commune plus attractive.
Des discussions entre le Liban et Israël pourraient reprendre aujourd'hui, c'est en tout cas ce qu'affirme Donald Trump. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'est exprimé sur ce qu'il attend de telles négociations.
Dans les négociations avec le Liban, il y a deux objectifs principaux. Premièrement, le démantèlement du Hezbollah. Et deuxièmement, une paix durable, une paix fondée sur la force. En attendant, notre armée continue de frapper le Hezbollah. Nous sommes sur le point d'anéantir leur grand bastion dans le sud du Liban.
C'est une information de nos confrères de BFM TV ce matin. Le gouvernement va demander une enquête à la Commission européenne sur les marges des raffineurs. En plein débat sur le décret que prépare le gouvernement pour encadrer les marges des distributeurs qui sont très remontées, Carrefour, Auchan ou encore Leclerc dénoncent un texte défaillant et déséquilibré, Célestin Bougère.
Une mesure inacceptable à Thierry Cotillard sur le plateau de BFM TV hier se dit remontée. Le patron du groupement Les Mousquetaires Intermarché prédit que cette proposition du gouvernement n'aurait aucun effet sur les prix à la pompe, tant ses marges sur le litre de carburant sont faibles.
Mes adhérents, c'est des commerçants, donc souvent ils sont entre 0 et 1. Quand il faut payer des charges, ils sont à 2 centimes. C'est notre intérêt et c'est la demande de nos consommateurs.
Maud Bréjon tempère quelques heures plus tard. La ministre déléguée en charge de l'énergie rappelle que le décret n'est qu'un projet pour le moment.
Nous leur demandons de répercuter les baisses aussi vite que les hausses ont été répercutées. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas besoin d'aller jusqu'à la promulgation de décrets, mais qu'on travaille avec éthique, avec bon sens. Et je crois que beaucoup y sont prêts. Donc tant mieux, allons-y comme ça.
De leur côté, les distributeurs proposent de suspendre pendant la crise la collecte des certificats d'économie d'énergie qui représentent 15 à 20 centimes le litre et qui servent à financer la transition énergétique. Hors de question, répond la ministre.
Il y aura d'autres crises énergétiques. Et la meilleure façon d'y être protégée, c'est d'avoir opéré cette transition énergétique, c'est d'être moins dépendant du gaz, c'est d'être moins dépendant du pétrole.
Maud Bréjon confirme qu'aucune mesure généralisée pour l'ensemble des automobilistes n'est prévue pour le moment.
À Guenbar, dans le Haut-Rhin, le récit glaçant du garçon de 9 ans séquestré pendant plus d'un an dans une camionnette par son père et sa belle-mère. Il a été entendu par les enquêteurs accusant sa belle-mère d'abord, qui selon lui menaçait de le placer en hôpital psychiatrique. Son père lui apportait de la nourriture 2 fois par jour et il n'aurait pas pris de douche depuis fin 2024. L'enquête se poursuit pour déterminer comment cet enfant a pu disparaître des radars sans inquiéter pendant plus d'un an. Seriez-vous prêt à vous rendre à une salle de sport la nuit sans aucun employé? Basic Fit, une des grandes chaînes de salles de sport françaises, a annoncé hier que 50 de ces salles resteraient ouvertes la nuit sans employé à partir de mai prochain. 200 au total pourraient fonctionner sur ce système. L'objectif pour ces salles de sport à bas prix, c'est bien de faire des économies. Une idée qui partage les utilisateurs. Reportage à Paris d'Alfred Orange et Sarah Bélienne.
Pouvoir faire sa séance de sport au beau milieu de la nuit, une aubaine pour Augustin.
Très bien pour moi, parce que moi, je suis noctambule.
Ce barman voit aussi le côté pratique.
Les jours que j'arrête de bosser à 12h du mat et j'arrive ici à 3h du mat et j'ai encore d'énergie, ça viendra très bien d'avoir l'accès à la salle de sport.
Une idée qui intéresse aussi Mathieu, employé dans l'hôtellerie.
Je suis né aux alentours de 1h, 1h30. Il y aurait moins de monde dans les salles de sport, je pense.
Pratique surtout en fin de semaine pour d'autres.
L'amplitude horaire est pas assez forte pour moi le week-end.
Le dimanche, par exemple, ça ferme à 7h, donc ça pourrait être cool.
Des plages horaires élargies, sans employé pour superviser la salle de minuit à 6h du matin. Pas de quoi rassurer Manon.
En tant que femme, on pourrait s'inquiéter un petit peu d'être seule avec quelqu'un de mal intentionné.
Dans un communiqué, la chaîne précise que les salles seront dotées d'un dispositif de vidéosurveillance 24h sur 24 et que la jauge ne dépassera pas les 19 personnes la nuit. Les salles déjà ouvertes en continu avec du personnel basculeront elles aussi vers ce modèle de club autonome. L'enseigne espère ainsi réaliser 10 millions d'euros d'économies par an.
Et le PSG affrontera le Bayern Munich pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Les Allemands ont battu le Real Madrid hier 4-3. Arsenal s'est qualifié contre le Sporting Portugal. Et ce soir, Strasbourg affronte Mayence pour les quarts de finale. Retour de la Conference League. Les Alsaciens ont 2 buts de retard. Et les courses pour finir. Le Quintet se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp à 13h55. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori est le numéro 7, 8 et leur outsider est le numéro 3. Lord of War.
C'était le journal de Solène Gardré. Et vous le savez, c'est une journée spéciale sur RMC.
RMC défend votre pouvoir d'achat.
Toute la journée et toutes les 30 minutes, RMC vous offre le plein 120 euros d'essence. Pour participer, vous envoyez tout de suite plein au 732-16. Plein au 732-16. Vous avez 15 minutes pour jouer à partir de maintenant. Et c'est toutes les demi-heures, toute la journée qu'RMC est à vos côtés.
75 centimes par SMS. 2 SMS maxi.
Et voilà, c'est aussi l'une des conséquences de cette crise des carburants. La consommation en France est en berne. Les Français sont obligés de faire des arbitrages. Et c'est un chiffre qu'RMC vous dévoile ce matin. Hors grande distribution, les commerces voient leur vente reculer de 4,7% en mars. Bonjour Sandra Oybian, merci d'être dans ce studio ce matin. Vous dirigez le Crédoc qui étudie la vie économique et la consommation des Français. Face à la crise, ils font des arbitrages, les Français. Est-ce que ça peut durer? Sur quoi est-ce qu'ils se reportent? Je vous pose la question dans un instant, non seulement à vous, mais aussi à tous ceux qui nous écoutent. Appelez-nous au 3216 pour nous dire si vous avez changé vos habitudes. Il est 7h37.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Et 7h40, et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Face à la flambée des carburants, les Français font des arbitrages, des choix et des sacrifices. C'est ce qu'RMC vous révèle ce matin. Les ventes des commerces sont en recul de 4,7% en mars. Boutiques de vêtements, magasins de beauté, magasins de jouets et même restauration ou bricolage. Les Français renoncent à certains achats. Merci d'être avec nous, Sandra Awabian. Vous dirigez le CREDOC qui étudie nos habitudes de consommation. Pour vous, ces chiffres, c'est la conséquence directe de ce qui se passe au Moyen-Orient ?
Alors effectivement, ce qu'on constate aussi dans les enquêtes du CREDOC, c'est que on est sur un mode de consommation défensif, c'est-à-dire que les Français ont conscience que les prix ont augmenté. Ils s'inquiètent aussi qu'ils continuent à augmenter, puisque là, il faut rappeler que l'inflation reste encore mesurée, mais évidemment avec le choc énergétique. Les Français ont quand même le souvenir de la période inflationniste et du fait que ça risque de se répercuter sur l'ensemble des prix. Et donc, on met de l'argent de côté, on essaye de limiter au maximum les dépenses pour se préserver par rapport à l'avenir.
Alors, on parle de qui ? On va voir. On parle de quoi ? Quels sont les achats, les magasins dont les allées sont vides aujourd'hui ? Quels sont les achats qui sont au minimum décalé dans le temps, peut-être même sacrifié.
Alors déjà, il y a des conséquences depuis plusieurs années sur les impayés, et notamment les impayés d'énergie qui ont été multipliés par deux depuis 2019. Donc on est à 1,2 million aujourd'hui de Français qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Donc il y a des conséquences qui sont pas forcément dans les supermarchés, mais qui sont clairement sur des dépenses qui sont considérées comme incontournables. On a ensuite effectivement les dépenses de loisirs, évidemment, qui sont repoussées. Les gros achats aussi, on attend davantage avant de se lancer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour changer une voiture? Ça veut dire
changer une voiture, mais ça peut être aussi la machine à laver qui commence un petit peu à donner des signes de faiblesse. On va essayer d'attendre au maximum.
On bricole.
On bricole. Et puis également essayer de multiplier les moyens d'économiser le carburant. Donc ça va être faire des courses en même temps qu'on va aller accompagner le petit dernier à son activité,
regrouper
les trajets et également limiter au maximum les déplacements, que ce soit pour des moments de sociabilité ou parfois aussi pour des démarches administratives ou autres.
Vous dites que les catégories évidemment les plus touchées, et c'est assez logique, ce sont les ruraux, les indépendants, ceux qui utilisent leur voiture, qui ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser leur voiture.
Oui, il y a 10% de la population française qu'on considère comme étant en vulnérabilité par rapport aux déplacements. Et effectivement, c'est principalement des personnes qui sont situées en zone rurale, parce que c'est assez logique, il y a très peu de transports en commun, et qu'elles n'ont pas de moyens de report, en fait.
22% des Français n'ont pas les moyens de s'offrir ne serait-ce qu'une semaine de vacances par an. C'est un chiffre dévoilé par l'INSEE hier. C'est un chiffre stable, mais ça veut dire que finalement, ça ne s'améliore pas.
Alors, effectivement, on est toujours... Il y a 4 Français sur 10 qui, chaque année, ne partent pas en vacances, et la moitié pour des raisons financières. Après, on peut aussi ne pas partir en vacances parce qu'on a des problèmes de santé, parce qu'on est aidant familial, parce que professionnellement, on n'a pas la possibilité, etc. Donc, cette question du budget, elle est évidemment fondamentale dans le départ en vacances. Et pourtant, il y a des choses qui ont été mises en place, puisqu'il y a 37%...
Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles, justement ?
Alors, qui ne part pas en vacances ? Donc, c'est plutôt des publics bas revenus, foyers monoparentaux, chômeurs, également on a à la fois certains retraités et également des jeunes.
Mais on parle quand même beaucoup de ces questions-là et depuis longtemps, il n'y a pas des moyens qui ont été mis en place, il n'y a pas des aides ?
Si, tout à fait, il y a des aides qui ont été mises en place. On a aujourd'hui 37% des Français qui ont une aide pour partir en vacances, que ce soit des chèques vacances ou que ce soit des aides par le comité d'entreprise ou la mairie ou la CAF. Et elles ont un effet sur le départ en vacances. Mais ce qui se passe, c'est que tout ne peut pas venir non plus de l'État et des dispositifs d'accompagnement. D'ailleurs, les Français, ce qu'ils souhaitent, c'est surtout pouvoir vivre de leur travail.
La question, c'est qu'aujourd'hui, les salaires sont bas, l'inflation va monter. Patrice nous appelle au 3216. Bonjour Patrice.
Bonjour Apolline.
Vous avez 60 ans, vous vivez dans les Vosges et je crois que vous êtes au RSA. Donc la question des vacances, honnêtement pour vous, ça vous paraît même déjà complètement décalé ?
Moi j'ai le cadet de mes soucis les vacances, je vous le dis franchement, ça fait 15 ans que j'ai pas pris de vacances, j'ai déjà avec le RSA à peine de quoi survivre et payer mes factures, alors partir en vacances, excusez-moi, mais je m'en fiche complètement de partir en vacances. De toute façon je peux pas, les prix des séjours augmentent, tout augmente, comment on fait nous les plus pauvres? Et moi je n'ai droit à aucune aide de la CAF, du département, de la mairie, du
Vous n'avez que le RSA, rien de plus?
Oui, rien de plus.
Et vous avez quand même un revenu?
Non, j'ai le RSA, c'est tout.
Mais vous avez travaillé, vous allez toucher une retraite? Vous êtes dans quel moment par rapport à ça?
La retraite à 67 ans, pas avant. Et puis l'argent de côté, j'en ai pas du tout, parce que voilà, quand on est RSA, on peut pas mettre d'argent de côté, on peut pas se payer une bagnole neuve, on peut pas se payer une voiture électrique, on peut pas se payer des vacances, on peut rien se payer de neuf.
Mais vous avez eu du travail à une époque où vous en avez encore un peu?
Oh, j'ai eu du travail à une époque, mais comme je suis journaliste et reporter, à 60 ans, il y a très peu d'entreprises ou de médias qui nous embauchent.
Donc en fait, au quotidien, comment vous faites? Vous pouvez encore réduire les dépenses? Franchement, vous êtes déjà à l'os, non?
Ah mais je réduis les dépenses, là j'ai obtenu un jardin communal pour mes légumes, ça va être bien.
D'accord.
Je vais pouvoir économiser sur les légumes, je vais cueillir des champignons dans les bois, je ramasse des plantes comestibles dans les champs, on arrive à se démerder à peu près, mais je vous garantis que moi le bistec c'est une fois tous les 15 jours, les œufs c'est une fois par semaine, voilà. Et les fiestas, le restaurant et compagnie, ça fait 5 ans que j'y suis pas allé.
Ça fait 5 ans que vous n'y êtes pas allé. Vous voyez les copains quand même? Vous arrivez à vous retrouver quand même de temps en temps, à avoir des moments?
Oui, les copains dans un village de 400 habitants, éloigné un peu de tout, à 10 km d'un supermarché, à 10 km d'une gare. Alors vous savez, les copains.
Bon, bah nous on est là en tout cas. Il est 7h47, merci de votre témoignage et bon courage Patrice. Les vacances, c'est le cadet de mes soucis. Voilà ce qu'il dit.
Oui, on comprend très très bien. Là, le RSA, c'est un niveau de vie qui est quand même... très 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 compliqué à tenir avec 650 € par mois. Bon, vous voyez bien qu'il n'y a pas tellement de marge de manœuvre.
Le problème, c'est évidemment que c'est aussi un cercle vicieux. J'en parlerai tout à l'heure avec Dominique Schelcher, le patron des magasins U, avec cette baisse de la consommation. Vous n'iriez pas jusqu'à parler d'une déconsommation?
Alors, ça dépend des domaines. Par exemple, sur l'alimentaire, on n'a toujours pas retrouvé le niveau de consommation d'avant Covid. Donc il y a quand même des changements qui se sont opérés. Moi, pour moi le problème principal c'est le problème du travail qui s'est beaucoup flexibilisé, qui s'est beaucoup précarisé et qui fait que les gens ne savent pas forcément quels vont être leurs revenus. Juste pour donner un chiffre, on a 8 personnes sur 10 qui sont employées, qui sont engagées en CDD et 30% de ces CDD, ce sont des CDD d'un jour. C'est-à-dire que vous n'avez aucune visibilité, en fait.
Il n'y a pas de lendemain.
Il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de possibilité de prévoir quoi que ce soit, de mettre de côté. On a baissé le chômage, mais on a baissé le chômage avec de l'apprentissage, avec les micro-entrepreneurs. Les micro-entrepreneurs, en moyenne, ils gagnent moins de 340 euros par mois.
Et donc, l'impossibilité de se projeter, et donc, crainte, et forcément...
Donc, finalement, augmenter la part de personnes qui sont en emploi n'est plus forcément une solution aujourd'hui pour diminuer la pauvreté.
Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, Sandra Wabian. Vous êtes directrice générale du CREDOC, c'est l'institut qui étudie nos habitudes de consommation. Et merci à Patrice pour son témoignage. N'oubliez pas, merci aujourd'hui, journée spéciale aussi pour votre pouvoir d'achat précisément. On vous offre toutes les demi-heures le plein d'essence. Restez bien à l'écoute d'RM. Il est 7h49, la voix de gauche vient de rentrer dans ce studio, c'est jeudi. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile Duflo, un député au SMIC ou un maire, le maire du Creusot, qui annonce qu'il va renoncer à ses indemnités de maire. Pour vous, c'est un geste fort ou c'est de la démagogie?
C'est un peu de démagogie. Être élu, ça demande du temps et pour ceux qui n'ont pas d'autres moyens par ailleurs, ça nécessite d'être payé.
Vous nous le dites dans un instant, il est 7h49 sur RMC.
RMC. Apolline Matin.
C'est l'heure du bonus avec Mathieu et c'est le grand retour de Madonna.
7 ans après son dernier album, ça c'est la sortie de Confessions 2 qui a été annoncée. On a une date le 3 juillet prochain, Confessions 2. Hein. Que cet album va être la suite de Confession on a Dance Floor, immense succès de 2005 dont vous entendez le single à l'époque. Alors un premier extrait a été diffusé hier. Sometimes I like to just hide in the shadows.
Ça reste énigmatique, c'est du teasing, hein, des nappes de musique, la voix de Madonna qui parle. Madonna qui promet un album spirituel, mais en dansant, dit-elle, nous devons danser et prier avec nos corps. Voilà ce que dit Madonna. La pochette de l'album a été révélée également. Madonna, qui aura 68 ans à la sortie du disque, pose sur une enceinte, tenue légère, violette, recouverte d'un voile rose. 17 chansons annoncées pour ce 15e album de Madonna l'été prochain.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h52 et c'est jeudi, c'est Cécile Duflot, la voix de gauche. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Le maire du Creusot en Saône-et-Loire a annoncé hier qu'il allait généreusement renoncer à ses 5600 euros d'indemnité d'élu. Il assure qu'il veut créer un électrochoc, que l'argent économisé sera redistribué dans les services publics de la ville. Est-ce que vous saluez cette initiative, Cécile?
Non, je trouve que c'est de la démagogie. Clairement de la démagogie, parce que ce maire, il est chef d'entreprise. Donc en fait, il n'en a pas besoin. Et par ailleurs, il prive ses adjoints d'indemnité, il les a beaucoup diminués, il dit que ça commencera pas avant mai. Et en fait, être élu, c'est du travail. Donc, si les gens n'ont environ à un mi-temps, hein, quand on est maire adjoint, si on le fait sérieusement, donc si les gens ils travaillent, qu'ils doivent se mettre à mi-temps, qu'ils n'ont pas les moyens de vivre, ça marche pas.
Donc, pour vous, un élu, il doit être payé.
Ah ben, si on paye pas un élu, c'est très simple. Qui va être élu? Et on a vécu ça dans notre histoire. Ce sera des mandats seulement pour des gens qui n'ont pas besoin d'argent.
Donc, pour les riches.
Pour les très riches, pour ceux qui sont chefs d'entreprise et qui gagnent très très bien leur vie, pour des retraités ou pour ceux qui ont une fortune personnelle et pas besoin de travailler. Et ça, je trouve pas ça normal. Il y a un maire du Pas-de-Calais qui a aussi dit qu'il renonçait à ses indemnités, qu'il allait les verser à une association. C'est très bien, mais il est retraité, il était médecin, donc effectivement, il a pas forcément besoin, il a du temps. Mais si on veut qu'un salarié classique, un salarié qui gagne 2000 euros par mois, qui passe à mi-temps, si on lui donne 400 euros d'indemnité, ce que veut faire le maire du Creusot, bah, il peut pas, tout simplement. Donc très clairement, ne pas payer les élus, c'est faire le choix d'exclure une grande partie de la population des mandats.
Et vous le savez, François Ruffin dit, je serai le premier président au SMIC, parce qu'au-dessus du SMIC, il distribuerait tout ça. Vous estimez, au fond, que c'est de la démagogie, qu'en plus, il y a quand même un certain nombre d'avantages, finalement, quand on est élu.
Alors, j'ai entendu François Ruffin, il a dit ça, mais comme il a dit lui-même, il a les moyens de le faire. Je sais très bien que si vous êtes une femme seule avec 4 enfants, c'était mon cas, j'aurais pas pu, j'aurais continué à travailler, j'étais payée plus que le SMIC, j'aurais continué mon travail. Enfin, donc, il y a quelque chose qui va pas.
Quand vous étiez ministre
et député. Quand j'étais ministre et député. Et par ailleurs, pour l'avoir été, je ne le suis plus depuis bientôt 10 ans, je peux vous dire que c'est plus confortable d'être salarié. Être élu, c'est beaucoup plus insécure, ça change très rapidement. Le niveau de protection sociale est beaucoup plus faible. La retraite des maires, par exemple, c'est quasiment rien du tout. Donc, faut pas dire des choses. J'ai souvent entendu, tout le monde me disait, bah alors, et la retraite de ministre, il n'y a pas de retraite de ministre. Enfin, il y a certains avantages pendant le mandat pour certains, mais il y a beaucoup d'élus qui ne gagnent pas d'argent en tenant leur mandat. Et je pense qu'il faut être un peu honnête en le disant, parce que sinon, finalement, on privatise ça au profit de quelques-uns.
Ce maire du Creusot, il relance le débat sur le montant aussi des indemnités. Est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est pas assez élevé?
Bah en fait, je vais prendre l'exemple du maire de Paris. Le maire de Paris, c'est très transparent. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec les indemnités, on le sait, ça doit être voté. Il gagne 6900 euros net. Il est maire de Paris, c'est très confortable. Hein. C'est une rémunération très confortable. Il y a 55 000 agents, c'est pas non plus indécent. Je peux vous dire que ses directeurs, les directeurs fonctionnaires, sont payés bien plus que le maire. Et donc, la question de l'équilibre des rémunérations, c'est un vrai sujet. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si on paye pas les élus, bah, on ouvre la porte et un grand risque, celui de la corruption.
Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de la démagogie, pour vous, bien payer les élus, ça protégerait contre la corruption?
Mais oui, parce que le principe des élus, c'est d'avoir du pouvoir de décider, notamment des marchés publics. Et c'est très documenté. Quand vous payez mal les élus, bah, ils sont soumis à tellement de sollicitations qu'ils peuvent être vulnérables. Il y a une phrase que j'aime bien qui dit l'intégrité a un prix. Il y a quelque chose d'assez juste finalement là-dedans. Et donc, c'est de l'argent public, donc on sait combien ils sont rémunérés. Et en revanche, là où le maire du Creusot a raison, c'est qu'il dit qu'il doit y avoir la transparence sur l'ensemble des frais de mandat. C'est vrai. Je pense que le bon cocktail démocratique, c'est bien considérer et bien rémunérer ses élus et exiger une totale transparence. Je pense que c'est comme ça que la démocratie peut bien fonctionner.
Merci Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC. Demain, c'est vendredi, vous débattrez face à la voix de droite, l'avocat Charles Consigny. Il est 6h56 sur RMC. Dans un instant, le journal de 8h à la une, la consommation en Berne, c'est une exclusivité RMC. On y revient dans un instant. Juste après le journal L'Économie, ce sera avec Emmanuel Le Chip. Emmanuel, vous allez nous parler de cette simplification de la vie des entreprises. Enfin,
est-ce que c'est le grand soir, Apolline?
Le grand soir de la simplification. Vous nous le dites dans un instant. N'oubliez pas, on vous fait aussi gagner toutes les demi-heures le plein sur RMC. Restez bien à l'écoute. Il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h59 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La guerre au Moyen-Orient a aussi des conséquences dans les magasins. Vous allez voir avec des ventes en baisse de 5% au mois de mars après les chiffres qu'on vous révèle ce matin sur RMC. Une question, ce matin, les discussions historiques vont-elles reprendre avec les dirigeants d'Israël et du Liban? C'est ce qu'affirme Donald Trump ce matin. Et vous allez voir aussi que le maire d'une commune des Côtes d'Armor a passé la nuit en prison, mis en examen après la mort d'une habitante qu'il a voulu hospitaliser de force la semaine dernière. RMC est sur place.
Le constat ce matin, c'est que les Français font attention à la moindre dépense.
Avec la crise au Moyen-Orient qui a fait grimper les prix des carburants et qui entraîne même une baisse des ventes d'environ 5% donc en mars sur un an. Dans les commerces du réseau Procos, qu'on vous dévoile donc ce matin sur RMC, Cassandre Aubron parle là de l'alimentation, des jouets, d'immobilier, vraiment de tout.
Oui, et d'abord, les enseignes de l'habillement, elles enregistrent une baisse de 4,4% de leur chiffre d'affaires en magasin par rapport à l'année dernière. Pour Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce, c'est en lien direct avec la hausse du prix des carburants et la situation internationale.
Il y a un climat pesant lié au Moyen-Orient qui fait que les Français qui sont peut-être pas dans les grandes agglomérations, mais qui sont dans les villes moyennes, qui ont besoin de leur voiture, commencent à arbitrer leurs achats et à s'inquiéter pour leur consommation future.
Et à cela s'ajoutent, selon lui, les touristes internationaux, notamment originaires du Moyen-Orient, qui ont moins voyagé. Dans les magasins de bricolage aussi, les clients se font plus rares dans les allées. Ils reportent leurs travaux, achètent l'essentiel, me raconte un vendeur d'une célèbre enseigne. Une baisse de la fréquentation confirmée par la Confédération nationale de l'équipement du foyer, qui observe aussi une baisse du panier moyen. Et d'après un sondage Elab pour BFM TV publié hier, un Français sur trois a renoncé à faire du shopping en raison de la hausse du prix des carburants.
Alors le gouvernement à ce sujet avait émis l'idée d'encadrer les marges des distributeurs qui s'en offusquent depuis hier. Finalement, aucune décision n'a été prise. Hein. Voilà ce qu'assure le gouvernement qui, d'après BFM TV, a écrit à la Commission européenne pour lui demander une enquête sur les marges des raffineurs depuis le début de la guerre. On en est à 48 jours. Ce matin, l'Iran menace de bloquer la mer Rouge si les États-Unis ne lèvent pas leur blocus maritime en amont du détroit d'Ormuz. Alors l'information majeure, Romain, que vous allez nous la détailler pour RMC, c'est que les discussions entre Israël et le Liban, certainement directement avec les dirigeants, doivent reprendre aujourd'hui, si on en croit la dernière sortie de Donald Trump.
Oui, le président américain s'en réjouit même sur ses réseaux sociaux. Voilà 34 ans que les deux dirigeants ne s'étaient pas parlé, écrit-il. Ça va se faire, great, super. Mais le président américain, comme à son habitude, s'est-il emballé trop vite. À l'instant, une source officielle libanaise dit ne pas être au courant d'un prochain contact avec Israël. D'ailleurs, Donald Trump n'avait pas non plus précisé qui allait se parler exactement, les premiers ministres, les présidents. Ce que dit le président américain, c'est que ces discussions font suite au premier pourparlers direct mardi entre le Liban et Israël. La question la plus urgente est la suivante. Y aura-t-il un cessez-le-feu? Depuis début mars, les frappes israéliennes sur le Liban ont fait plus de 2000 morts et 1 million de déplacés. Le cabinet de Benjamin Netanyahou affirmait hier étudier cette hypothèse. Le premier ministre israélien qui a en tout cas posé des conditions hier soir dans une allocution télévisée. L'objectif numéro 1 des négociations avec le Liban, c'est le démantèlement du Hezbollah, le mouvement chiite terroriste qui a déclenché les hostilités en s'alliant à l'Iran pour frapper Israël. Lui ne veut pas entendre parler de négociations associant ce dialogue, je cite, à une capitulation.
Et Israël ne veut pas de la France dans ces négociations, ce qui donne lieu d'ailleurs à une joute verbale entre diplomatie française et israélienne. Et alors c'est dans ce contexte qu'il va encore y avoir certainement des secousses à l'Assemblée nationale aujourd'hui, où sera examinée la proposition de loi déposée par la députée Renaissance Caroline Yadan, soutenue par le gouvernement et visant, je cite là, à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Mais alors cette loi, ce projet de loi, cette proposition est très critiquée, hein, Sonia Gobry du service politique à RMC. La gauche y voit une censure de la critique envers Israël et même une partie du bloc central est contre ce texte. Ça va peut-être bien s'ajouter à la liste de tous les camouflés pour le gouvernement depuis le début de la semaine.
Le plus ouvertement opposé, c'est le MoDem. Les contours de ce texte sont trop flous, reproche le chef de file du groupe, Marc Fesneau.
Pour lutter contre l'antisémitisme, il faut être ferme, clair et avoir des terminologies qui soient précises. Manifestement outrancière, dès qu'il y a du flou dans une loi, il n'y a pas de loi.
Pour l'élu centriste, cette proposition de loi vient nourrir un amalgame entre juifs de France et politique israélienne. Marc Fesneau estime que le texte dessert la lutte contre l'antisémitisme et met de l'huile sur le feu.
À chaque fois qu'on a des textes comme ça, c'est pas serein. Ça s'est toujours fini en pugilat. Alors je sais pas à quoi on gagne. On sert une tribune à M. Mélenchon.
Hors micro, certains députés Renaissance confient leur malaise, même si le texte émane de l'une d'entre eux, Caroline Yadan. Pour elle, ceux qui voteront contre sa proposition de loi cèdent à la pression de LFI.
Je comprends les inquiétudes, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on touche en fait à quelque chose de sacré, qui est la liberté d'expression, mais comme je vous l'ai dit, ce texte n'empêche pas la critique d'Israël.
Mais preuve du remous, à mots couverts, des députés de gauche comme de droite laissent entendre qu'ils ne regretteraient pas que le programme chargé de l'Assemblée conduise à un report de l'examen de ce texte.
Alors ce matin, ce sont des écrivains qui mènent une fondre. 115 auteurs signent une lettre dans laquelle ils annoncent leur départ de la maison d'édition Grasset, qui appartient au groupe Bolloré. Célestin Bougère pour RMC. Il nous explique que c'est pour s'opposer au licenciement du patron historique.
Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy, Frédéric Becbédé ou encore Vanessa Springora, tous ces auteurs de poids ont claqué la porte. Nous ne voulons pas que nos idées, notre travail soient sa propriété. Les 115 auteurs reprochent à Vincent Bolloré l'éviction d'Olivier Nora, en poste depuis 26 ans à la tête de la maison Grasset. Aucune raison n'a été donnée officiellement pour expliquer le départ de cet éditeur respecté, mais on savait que les deux hommes avaient de profonds désaccords. Olivier Nora s'était porté garant de l'indépendance de Grasset après le rachat de sa maison mère, le groupe Hachette, par Vincent Bolloré il y a 3 ans. Dans une lettre, les 115 auteurs disent refuser d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias. C'est Jean-Christophe Thierry, PDG de Louis Hachette Group et homme de confiance de Vincent Bolloré, qui doit succéder à Olivier Nora à la tête de Grasset.
Il est 8h06 et on en parlait un petit peu plus tôt dans la matinée sur RMC. On apprend donc ce matin que le maire de Plouane, commune des Côtes d'Armor, a été mis en examen et écroué une semaine après avoir voulu hospitaliser de force une habitante de 66 ans qui est décédée depuis, maintenue au sol pendant 15 minutes et même les jambes attachées à l'aide d'une corde, selon les mots du procureur de Saint-Malo. Le village tout entier cherche depuis à comprendre, nous dit Constance Bostoen du service police-justice à RMC.
Derrière le bar de son PMU, Christophe, le gérant connaissait bien Catherine, la sexagénaire qui est décédée.
Elle venait me voir moins une fois par jour, venir chercher ses cigarettes, ses feuilles ou boire un petit café.
Mais selon lui, depuis quelques temps, elle était devenue plus agressive, comme l'explique aussi Emmanuel, une habitante.
On voyait qu'elle était un peu perturbée, qu'elle était plus excitée que d'habitude.
Un comportement qui pousse le maire, son adjoint et deux autres personnes à intervenir à son domicile la semaine dernière avec l'objectif de la faire interner en psychiatrie. Pendant 15 minutes, ils la maintiennent au sol, lui attachent les jambes. Selon l'autopsie, c'est cette intervention qui coûte la vie à la sexagénaire. Lundi, tous sont placés en garde à vue, mais ici, beaucoup, comme Christian, estiment que les deals n'avaient pas de mauvaises intentions.
C'était dans un esprit de vouloir le bien de sa ville qui est intervenu.
Aucun arrêté municipal d'hospitalisation sous la contrainte n'avait été pris par le maire de Plouane. Pour autant, pour Jean-Claude Barbet, le deuxième adjoint de la commune, pas question de ne pas soutenir le maire.
C'est un maire qui a fait des bonnes actions par le passé et au présent. Mais il a cédé sous la pression des riverains.
Une enquête est en cours pour violence volontaire ayant entraîné la mort et la famille de la victime a porté plainte.
C'est le Bayern qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Ça va arriver très très vite, hein. Vous pouvez déjà noter les dates. Match aller le 28 avril à Paris, match retour le 6 mai à Munich où le Bayern a éliminé le Real hier soir en gagnant 4-3, match incroyable. Les Français sont fait remarquer en bien pour Mbappé et Olise qui ont marqué, en mal pour Kamavinga qui a été expulsé. Et l'autre demi-finale de cette Ligue des Champions va opposer l'Atlético à Arsenal. Et alors ce soir, c'est Strasbourg qui sera condamné à l'exploit pour remonter un écart de 2 buts face aux Allemands de Mayence. Ça, c'est le quart de finale retour de Conference League et ce sera à vivre évidemment à 21h sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet. Vous le savez, aujourd'hui, c'est une journée spéciale sur RMC.
RMC défend votre pouvoir d'achat.
Oui, parce que toutes les demi-heures, on vous offre votre plein d'essence sur RMC. 120 €, toutes les demi-heures. 120 € toutes les demi-heures. C'est aujourd'hui et aujourd'hui seulement. Vous recevez 120 € d'essence en envoyant plein au 732-16. Plein au 732-16. Vous avez 15 minutes pour jouer à partir de maintenant. Ça revient toutes les demi-heures. Et d'ailleurs, l'un de vous sera en direct avec nous, l'un des gagnants, en direct avec nous à 8h20. Plein au 732-16.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Il est 8h08 et on parle économie avec vous, Emmanuel. Économie et simplification, puisque cette loi de simplification de la vie économique a enfin été adoptée au Parlement hier. Est-ce que ça va vraiment avoir des effets au quotidien, notamment pour les entreprises ?
Alors, pour être honnête, Apolline, cette loi, elle fait quelques petits pas par rapport à ce qui serait nécessaire pour aller vers, effectivement, une vie plus simple pour nos entreprises. Mais c'est des petits pas qui nous emmènent un peu plus loin quand même que la plupart des lois de simplification passées. Ces lois de simplification passées, hein, elles ont été proposées, alors c'est simple, par quasiment tous les gouvernements depuis le début du XXe siècle. Tous nous promettaient le grand soir, mais tout ça n'a pas empêché la France de se retrouver aujourd'hui 115e sur 138 pays quand même, sur le critère de la réglementation et de sa complexité dans le palmarès du Forum économique mondial sur la compétitivité. Alors cette loi, elle va faciliter les relations des entreprises avec l'État, avec les banques et les assurances. Il y aura moins de frais bancaires, il y aura des délais d'indemnisation mieux encadrés, par exemple, en cas de sinistre, et il y aura plus de recours possibles contre l'administration, et puis un accès facilité aussi à la commande publique, notamment via une plateforme unique.
Au final, est-ce que cette loi, elle va vraiment permettre à nos PME, notamment, d'économiser du temps et de l'argent ?
Alors, au quotidien, oui, il y a quand même quelques évolutions bienvenues, hein. Cette loi, elle protège mieux la trésorerie des commerçants pour lisser les loyers des baux commerciaux, par exemple, pour plafonner les dépôts de garantie ou faciliter certains travaux. Elle simplifie les cessions d'entreprises. Les projets de normes qui concernent la vie économique seront d'abord testés sur un échantillon d'entreprises. La France était un pays qui ne testait jamais.
Donc on se rendait compte après que ça marchait pas.
Exactement.
Mais trop tard.
Et ben là, au moins, on fera des expérimentations. Et puis, la loi permet des dérogations pour accélérer des projets industriels et énergétiques. C'est le fameux effet Notre-Dame.
Hein. C'est-à-dire ce régime d'exception vis-à-vis notamment des normes sur l'environnement, sur l'urbanisme, qui avait permis de reconstruire Notre-Dame en 5 ans.
Espérons que ce n'est quand même que le début de la grande simplification dont la France a besoin. Et rappelons que c'est quand même le meilleur moyen de faire des économies parce que...
Ça coûte pas grand-chose.
Ça coûte 100 milliards. Ça coûte 100 milliards. Oui, vous avez raison.
Oui,
ça coûte rien.
Ça coûte rien de les enlever.
Et ça rapporte beaucoup.
Et ça rapporte
qu'est-ce
beaucoup.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus intelligent que ça aujourd'hui? Ça fait plaisir à tout le monde. Ça simplifie la vie de tout le monde. Ça se voit au quotidien. Ça permet de faire beaucoup d'économies. Allons-y. Continuons.
Allons-y gaiement. Les prix du jour, évidemment, comme chaque jour, le journal de l'énergie avec vous, Emmanuel. Ça monte ou ça descend?
Oh, on est plutôt stable. Le gazole, on est à 2,30 hier. C'était 2,29 la veille. Le sans-plomb 95. On est vraiment à 1,99. Là, pareil, c'est à peu près stable depuis le début de la semaine. Le pétrole, on est dans une fourchette étroite, hein, entre 95 et 100 dollars, plutôt dans le bas en ce moment de cette fourchette. Et puis, la bonne nouvelle qui continue jour après jour, c'est la baisse des prix du gaz, hein. On est à 41 euros le mégawattheure contre 45 en début de semaine. Pour vous donner un ordre d'idée, avant la crise, on était à 30. On est monté à 60.
Et aujourd'hui, on est redescendu
à 40. Donc, on a refait quand même une partie du chemin de la hausse. Et c'est une bonne nouvelle.
Merci beaucoup, Emmanuel. Emmanuel Le Chypri, les 8h12. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Je viens nous rejoindre. Il y aura aussi le face-à-face. Dans le face-à-face, mon invité, c'est Dominique Schelcher, le patron des magasins U. Il possède 1000 stations essence sur tout le territoire. Le gouvernement leur demande de réduire leur marge. Les distributeurs sont très en colère. Ouais, moi, je veux bien, mais à un moment, il va bien falloir que ça baisse. Et comment faire pour que ça baisse? Il y aura aussi face à Canteloup. Tous les jours, Nicolas Canteloup est en direct sur RMC à 8h50. Restez bien avec nous, il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h16. Ouais. C'est tous les jours qu'il y a.
Ça chahute déjà. On en profite.
Il faut quand même le dire, on s'entend tous.
Mais oui.
Et donc, c'est vrai que pendant les petits moments de pub, on se raconte notre vie.
Et voilà. on se raconte des histoires drôles et on déconne.
Et
voilà.
Allez,
et en plus, on en profite parce que sinon, enfin, c'est la misère, quoi. Ma pauvre Apolline, mon pauvre Mathieu, Géraldine, Virginie. Les horreurs de la guerre. Ça continue puisqu'après, les carburants. Maintenant, c'est les pistaches.
Qui
sont impactés par la guerre. La pénurie explose. Enfin, les prix montent. Manu Le Chypre vous en a parlé cette semaine ici. Et il a même laissé éclater sa colère sur BFM Business.
Bonjour. Aujourd'hui, l'impact économique du blocage du détroit d'Ormuz. Emmanuel Le Chypre, vous voulez... Bah, enfin, Choubinou, qu'est-ce que tu fais en tenue de camouflage avec un masque et des palmes ?
Non, c'est juste que si on commence à toucher à la bouffe, ça va chier. Alors moi, je pars dans le Détroit et on va voir s'il y a toujours un blocus.
Oh mon héros, non ! Ne fais pas ça, ne t'en va pas ! On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je ne veux marier, père !
Non, Moumoune, c'est mon devoir. Je peux pas laisser... Je peux pas laisser à mon fils un monde sans pistache. S'attaquer à l'apéro, c'est s'attaquer à la France.
Effectivement, Macron doit parler.
Françaises, Français, nous sommes en guerre. Ils s'en prennent à nos valeurs, à notre mode de vie. Aujourd'hui, l'apéro est une cible. Et demain, si nous n'y prenons pas garde, les cacahuètes et les chipsters seront visés. Bon, on a du bol, le cochonou est pas trop produit dans la région, donc ça va. D'ailleurs, aujourd'hui, RMC offre aux auditeurs leur plein d'essence toutes les 30 minutes. Et ça, c'est... Ah, non, pardon, Grégory, notre directeur d'antenne, vient de m'écrire, l'opération est annulée. RMC vous offre dorénavant 120 000 pistaches. Vous faites tourner la roue des pistaches. Et la roue des pistaches vous donne un numéro pour ouvrir le coffre des pistaches, Apolline. Et dedans, il y a 12 pistaches numérotées, sauf qu'il y en a 11 de vide. C'est juste la coquille. Il faut trouver la bonne. Et là, vous gagnez votre poids, 120 000 pistaches.
Greg, bon, il est prêt à créer ce jeu, je pense.
120 000 pistaches.
Alors, je me suis informé sur les produits bloqués par la fermeture du Détroit. Donc, il y a le pétrole, le gaz, la pistache, le chocolat à la pistache de Dubaï. C'est suite à une seule bouchée, t'as les fesses de Kim Kardashian. De bloqué, il y a aussi le droit des femmes et la démocratie. Mais alors là, c'est bouché dans l'autre sens de navigation. Oui. Ils peuvent plus en importer. Bon, après, c'était pas des gros consommateurs non plus.
Non,
c'est moins grave pour eux que nous, les pistaches.
Donald Trump a dévoilé les plans de l'Arc de Triomphe qu'il compte faire construire aux États-Unis.
Oui, un arc qui ressemble aux Français, mais en plus gros. La définition d'un Américain.
Oui. Nous,
quand on voyage dans un pays étranger, on ramène une épice ou une boisson locale. Lui, il ramène des bâtiments. Ouais. J'ai aimé l'Arc de Triomphe, je le veux. Trump, il se construit en ce moment une salle de bal, un Arc de Triomphe. En fait, il est dans sa période, j'aime les grues et les tracteurs.
Oui.
Il a les mêmes plaisirs qu'un enfant de 4 ans. Il a, oh, le beau tractopelle. Là, il a une petite période, j'aime les fusils et les bateaux. Mais bon, ça va se calmer, hein. Apo, vous avez des enfants, vous savez ce que c'est. Dans trois semaines, il va attaquer la phase dinosaure.
Oui.
Je vais ressusciter des tyrannosaures et les lâcher en Iran. Oh, oh, un dinosaure.
Pas du tout, je suis Jack Lang.
Vous vous souvenez de moi? On s'est croisés dans le jacuzzi de Woody Allen chez Jeffrey, avec Bill Gates et Patrick Bruel. Ça vous dit rien cette soirée?
Allemand vient d'être lancé pour répondre à la question « Mon ancêtre était-il nazi ?»
Oui. Bah oui, un peu de bonne humeur, allez, il y en a marre de la guerre.
Ça vaut tous les tests ADN.
On se détend un peu avec les nazis, quoi. Alors c'est très simple, vous rentrez votre nom de famille et hop, le site vous dit si vous avez des ancêtres nazis. C'est génial, c'est copain d'avant, mais en nazi. Copain nazi. C'est un bon jeu à faire un dîner entre amis. Bon après c'est en Allemagne, je veux dire, il n'y aura pas un gros suspense, un convive sur deux. Non mais, en vrai je pense que personne ne va oser chercher si son ancêtre était nazi d'ailleurs. Pour vérifier le background des collègues casse-couilles, oui, il y aura des conversations à la machine à café en Allemagne. T'as Gunther, il m'a saoulé avec le dossier à Schmidt. Mais ça m'étonne pas, tu sais qui était son ancêtre? Ça va être ce genre de truc. On va pouvoir vérifier si la personne avec qui on parle sur Tinder, elle est safe. D'ailleurs, de l'ambiance dans les EHPAD allemands en ce moment.
Pourquoi vous me faites la tête, Dr Cohen?
Pour rien du tout. Pour rien.
Aïe! Vous m'avez fait mal.
Mais non, c'est normal. Imaginez le mec qui est à la fois dans les fichiers d'Epstein et à la fois dans le fichier nazi.
Alors là, on a un grand chelem.
Ouais, on peut croiser les fichiers. Puis alors, sur CNews, t'as la moitié des chroniqueurs qui vont appeler leur grand-père, là. Hein.
Je suis très déçu, papy. Pourquoi t'es pas dans le fichier? Et je passe pourquoi, moi, professionnellement? Parce que c'est limite un motif de licenciement, là-bas. Allez, à demain. À demain.
Merci à... Arnaud Demanche, un dinosaure. Non, je suis
non, 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 je
Il est 8h21 et comme vous le savez, aujourd'hui, toutes les demi-heures, on vous fait gagner le plein d'essence sur RMC. Et on est tout de suite avec un des gagnants d'RMC, un des gagnants du jour. Et c'est vous, Corinne. Bonjour, Corinne.
Bonjour Pauline, bonjour l'équipe.
Eh ben félicitations Corinne. Vous vivez où? Vous faites quoi dans la vie?
J'habite à Guiran, je fais 40 km aller-retour, donc ça va bien m'aider.
Ah, ça c'est super. On est content que ça arrive au bon endroit. Vous êtes donc dans l'Ardèche et effectivement vous avez besoin de la voiture.
Ah oui. Bon. On est bien desservi quand même. On peut se déplacer. C'est pas un petit village dans la montagne. Hein. Mais bon.
Les 40 km, vous allez avoir ce plein 120 € pour vous. Merci d'écouter RMC tous les matins. Voyez, on est très heureux de pouvoir vous accompagner tout au long de la journée. Il y a toutes les demi-heures un plein à gagner sur RMC. Félicitations Corinne, et je pense notamment aussi à Claudine et à Eric qu'on vient de faire gagner parce qu'il y en a un toutes les demi-heures. Et depuis le début d'Apolline Matin, Claudine, Eric, Corinne ont déjà gagné le plein RMC, les 120 €. Il est 8h22, dans un instant, on va continuer à en parler du prix de l'essence, puisque mon invité c'est Dominique Schelcher, le patron des magasins U. Il est aussi distributeur d'essence, 1000 stations sur l'ensemble du territoire. Alors je veux bien qu'il ne veuille pas baisser les marges comme leur demande le gouvernement, mais enfin il va quand même falloir trouver une solution pour que ça baisse. Réponse donc dans un instant sur RMC BFM TV. Il est 8h23. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Solène Gardré.
Le gouvernement demande une enquête sur les marges des raffineurs à la Commission européenne, selon nos confrères de BFM TV. Et alors que les distributeurs s'opposent au projet de plafonner leurs marges pour encadrer le prix des carburants. Au Moyen-Orient, le flou autour de possibles discussions entre les dirigeants du Liban et d'Israël. Aujourd'hui, Donald Trump affirme que oui, mais le Liban dit ne pas être au courant. Ce serait une première depuis 34 ans. Malgré une pétition de 700 000 signatures, le projet de loi Yadan devrait bien être examiné aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un texte qui veut contrer, je cite, les formes renouvelées d'antisémitisme. À Saint-Gaudens et Tarascon, près de Toulouse, plus de 600 emplois menacés après l'annonce hier de la cessation de paiement de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence. Le tribunal tranchera fin avril. 115 auteurs quittent la maison d'édition Grasset après le licenciement de son PDG Olivier Nora, en poste depuis 26 ans et alors que Grasset a été repris par Vincent Bolloré il y a 3 ans. Un maire mis en examen et écroué dans les Côtes d'Armor après la mort d'une femme de 66 ans qu'il essayait d'hospitaliser de force. En foot, le PSG affrontera bien le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions après avoir gagné 4-3 hier soir contre le Real Madrid. Et Arsenal s'est qualifié contre le Sporting Portugal.
C'était le rappel des titres de Solène Gardré. Mon invité, dans un instant, dans le face-à-face, possède 1000 stations-service sur tout le territoire. Et il refuse qu'on encadre ses marges. Alors certes, elles sont minimes, mais pourquoi ça les met si en colère, tous les distributeurs, cette proposition de décret du gouvernement pour encadrer leurs marges? Réponse dans un instant, et puis surtout réponse sur le prix de l'essence. Est-ce que ça va baisser et quand? Dans un instant, sur RMC, BFM TV, Dominique Schelcher.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique Schelcher.
Bonjour Apolline.
Merci de répondre à mes questions ce matin, et j'en ai plein, plein, parce que vous êtes le président de coopérative U. C'est les magasins U bien sûr, mais c'est aussi les stations U. 1000 stations essence sur tout le territoire. Il y a eu ce projet de décret hier du gouvernement. Il est écrit, il est prêt, disent-ils. L'idée, c'était d'encadrer les marges des distributeurs. Et quand on voit la colère dans laquelle ça vous a mis, vous, mais aussi tous vos camarades distributeurs, à la fin, j'en viens même à me dire qu'ils ont peut-être quand même touché sur un point sensible. Vous avez réagi, ultra réagi, vous avez tout de suite écrit et vous êtes tous très en colère.
Mais non, mais on a réagi parce qu'on sait que ça va être contre-productif s'il est mis en œuvre. Alors ce matin, je
vous
dis...
Est-ce que vous avez réagi aussi parce que finalement, il y avait peut-être de l'argent à perdre?
Mais non, je relativise. Déjà, j'ai entendu la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dire que rien n'est décidé et que rien n'est fait. Moi, je prends le pari que... Il ne sortira pas ce décret. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas laisser croire aux Français que ça changerait quelque chose. Je rappelle la séquence. La séquence, c'est quoi? On démarre cette crise et rapidement, il y a des contrôles dans les stations. 500 contrôles, plus de 500 contrôles pour vérifier.
Annoncé personnellement, directement par le Premier ministre.
Tout à fait. Et en fait, de ces contrôles, il ne sort quasiment rien. Symboliquement, quelque chose, mais de notre côté, en tout cas, rien. Pas d'alerte, etc. Ensuite, nous, on fait de la pédagogie pour expliquer pendant de longues semaines la réalité du marché du carburant. Et au bout de 5 semaines, j'ai mesuré, au bout de 5 semaines, les observateurs, les journalistes, des hommes politiques ont commencé à dire non, le sujet n'est pas chez les distributeurs. Même le ministre de l'économie a dit, moi, ce que je demande aujourd'hui, c'est une enquête sur les marges des raffineurs. Il a demandé ça à Bruno Bruxelles.
On va y revenir, oui.
Et donc, et au bout du compte, on revient avec ce décret qui nous cible, nous, comme des boucs émissaires, une fois de plus, on n'a pas compris. Et c'est ça qui nous a surpris.
Alors, vous n'avez pas compris, on va venir évidemment au fond de ce qu'il vous demanderait ou ce qu'il ferait. D'abord, vous n'y croyez pas. Ce décret ne verra pas le jour.
C'est une usine à gaz qui ne changerait pas le quotidien des Français. Donc, faut pas laisser croire ça. Et je veux dire, ce serait contre-productif pour le gouvernement aussi. Au bout du compte, ça changerait rien sur une activité où on ne gagne rien.
Vous dites c'est injuste, inapplicable et illégal. Voilà ce que vous écrivez avec vos confrères, les dirigeants de Carrefour, d'Auchan, d'Intermarché, de Leclerc. Vous êtes donc les 5 premiers distributeurs français et vous dites c'est absurde. Sauf que l'objectif officiel, en tout cas du gouvernement, c'était d'identifier, je cite, d'éventuelles surmarges. Est-ce qu'elles existent, ces surmarges ?
Mais elles peuvent exister très ponctuellement.
Est-ce qu'en ce moment, elles existent ? Parce que quand même, on comprend pas pourquoi ça baisse pas.
Alors ça, c'est une excellente question que j'ai tous les jours. Pourquoi ça monte très vite et pourquoi ça baisse beaucoup plus lentement? Mais saviez-vous que ce sujet aujourd'hui est documenté? Il y a des articles d'économistes aujourd'hui qui expliquent le sujet. Quand ça monte, nous, on achète au jour le jour des camions en fonction du cours à Rotterdam. C'est monté très haut, très vite. Ça déclenche immédiatement la mobilisation des gens qui ont peur que le prix augmente encore plus et qui ont peur, voire, de pénurie. Donc, les stocks, les cuves se vident très vite et donc le prix est haut assez vite. Mais quand ça diminue, c'est beaucoup plus lent. Pourquoi ? Parce que les gens pensent que les prix vont baisser.
Et donc, ils attendent.
Ils attendent actuellement nos clients, mais le nombre de clients qui font des plaintes de 20 euros, 25 euros, parfois que 15 euros, en disant « je prends le minimum, ça va baisser ». Et donc, les stocks se vident tout doucement. Et après, on le voit bien, un jour le cours monte, un jour il baisse, c'est pas, ça ne descend pas. Les cours ne baissent pas aussi vite qu'ils ont monté. Et alors voilà, tout ça cumulé fait la situation
d'aujourd'hui. On va essayer quand même de comprendre comment ils pourraient baisser ces fameux prix à la pompe, Dominique Schellcher. Deux points sur votre solution, on va y revenir. Vous proposez de décaler au moins dans le temps votre participation à l'effort d'électrification et de transition énergétique. Bon, et puis il y a ce courrier, effectivement, vous le dites, au fond, il y avait eu comme deux mouvements parallèles. Le gouvernement hier affiche qu'il vous met la pression avec ce projet de décret. Et puis parallèlement, il a écrit à la Commission européenne. C'est ce que BFM TV vous a dévoilé ce matin. Maud Bréjon et Roland Lescure ont écrit à la Commission européenne pour demander une enquête sur les marges des raffineurs. Mais là, on parle plus de vous, distributeurs, ouais, on parle des raffineurs. Disais, il y a un instant. Ils disent, face au risque de collusion et de manipulation, la France souhaite que soient mises en œuvre au niveau européen des actions permettant d'améliorer la transparence sur la formation des prix. La France constate depuis le début de la guerre en Iran une forte hausse des prix des produits pétroliers raffinés, en particulier de gazole et de kérosène, au bénéfice des raffineries dont les marges ont fortement augmenté depuis février. En fait, c'est Total le problème.
C'est Total, les d'autres raffineurs, parce qu'il n'y a pas que Total, et aussi peut-être les spéculateurs de ce marché. Parce que quand c'est monté aussi vite, ils ont craint quoi ? Ils ont craint une pénurie, mais au bout du compte, c'est qui le paye ? C'est le consommateur final. Et donc ça, c'est embêtant. Et donc voilà, moi je suis content que cette enquête soit déclenchée. Ça avait été annoncé il y a quelques jours. Et donc, d'autant plus, on comprend moins que ça se retourne encore une fois vers nous.
À quoi il joue le gouvernement là ? Il fait quoi ? Il fait du chantage avec vous ? Il vous dit, attention, on a ce décret qui est prêt. Et ils se disent, au moins c'est une menace.
Apolline de Malherbe, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai un peu d'expérience maintenant. Il y avait déjà eu des choses avec, un moment, il y a quelques années, pendant la guerre en Ukraine, il y avait eu un pic aussi sur les prix du carburant. Et là, on nous avait demandé de vendre à perte. Et c'était exactement le même scénario.
C'est illégal.
Et ça n'était pas possible, on ne pouvait pas vendre à perte, mais ils voulaient prendre un texte, on l'a expliqué longuement, et le texte n'est jamais sorti. Je pense qu'on est dans le même scénario cette fois.
En fait, c'est quoi ? C'est du bluff ? C'est du chantage ? C'est une forme de dissuasion politique ?
Mais je comprends aussi le gouvernement qui est pieds et poings liés avec une marge de manœuvre budgétaire qu'il n'a pas. Et donc, à un moment, il cherche des solutions. En l'occurrence, celle-là n'est pas une bonne solution pour aider les Français.
Vous faites parce quoi qu'au comme bout marge du compte, vous faites quoi comme marge ? Au litre, il y a combien qui arrive dans les poches de
litre,
coopérative ?
Un, deux ou trois centimes. Mais quand la période est aussi tendue que ça, les clients, tous les jours, regardent le totem avec les prix devant les magasins. Tous les jours, ils ne regardent que ça et ils vont moins cher. Donc, si vous n'êtes pas dans votre zone...
De toute façon, vous êtes obligé d'être compétitif.
Mais bien sûr, on est obligé. Et si on ne le fait pas, je vous assure, les clients partent ailleurs et ils ont raison de travailler et de faire comme ça au jour le jour.
Alors donc, maintenant, on fait quoi? La question, comme on le disait, des raffineurs. Alors principalement Total pour nous en France. Est-ce qu'effectivement, en vrai, c'est à eux de faire l'effort?
Je pense qu'il y a des marges de manœuvre à ce niveau-là. Je rappelle quand même, la presse a révélé il y a quelques jours que rien que sur le mois de mars, grâce à des positions spéculatives, Total Energy a fait 1 milliard de résultats sur une opération très précise.
Ils ont particulier acheté immédiatement.
Voilà.
Alors votre confrère et concurrent Michel-Édouard Leclerc disait au fond c'est très bien joué du point de vue économique, voyant le début de la crise. Monsieur Pouyanet, le patron de Total, a acheté immédiatement 7 pétroliers pleins en se disant ça fera du stock.
Tout à fait.
Avant que les prix ne montent.
Exactement. Donc je dis bravo à Total Energy, je dis bravo à ses résultats.
Ça veut dire qu'il y a du gras.
Voilà.
Il y a 1 milliard.
Voilà. Et c'est pour ça que pendant la crise, il y a quelques jours, je lançais aussi un appel aux pétroliers à nous vendre à nous aussi moins cher pour qu'on puisse tous vendre un peu moins cher aux Français. C'est la seule chose qui compte.
Donc, il y a la question des marges des raffineurs. Il y a la question des taxes de l'État. Quand on regarde nos voisins, Italie, Espagne, Allemagne baissent les taxes. Mmh. Est-ce que vous estimez que la France doit le faire?
On n'a plus de marge de manœuvre budgétaire et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Et donc pour moi, le vrai sujet derrière tout ça, je dirais, on est au bout du sujet et enfin, il faut prendre les mesures qui nous ferait en France dépenser moins, réduire ce fameux déficit et dégager des marges de manœuvre en cas de crise.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le problème, il est global pour vous?
Tout à fait.
Ce sont les choix budgétaires de la France.
Mais oui, c'est une histoire de ces dernières années qui nous conduisent là. Les pays européens qui ont pu faire des efforts sont en meilleure posture budgétaire, ont une meilleure croissance, ont un déficit qui s'est amélioré ces derniers temps. C'est pas le cas de la France. Et donc, pour moi, c'est un signal de dire, on est au bout. Maintenant, quelles sont les mesures qu'on prend pour changer cette situation?
Ce que vous dites, c'est que vous comprenez que, en l'état actuel, et si les arbitrages budgétaires n'avaient pas été ceux, finalement, assez peu courageux, si je vous entends, des derniers temps, on aurait pu baisser les taxes. Mais en l'état, on peut plus.
En l'état, je pense qu'on ne peut plus, malheureusement. Et pour moi, la seule solution serait éventuellement, donc pas une baisse, je pense, de taxes, peut-être massive, mais d'aider à terme, ceux qui en ont le plus besoin.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire une aide ciblée. Avaient été promises, ces aides. Elles ont été un tout petit peu mises en place, mais enfin, surtout sous forme de prêts ou de garanties, ouais, mais pas tellement en termes d'aide. Je recevais hier un infirmier libéral, représentant de la profession, qui disait on en est à refuser de nouveaux patients, mm-hmm, parce que ça nous coûte d'aller faire des actes, notamment lorsque l'on est dans un monde rural avec des personnes isolés, des personnes âgées, et donc qui vont se retrouver à ne plus être soignés.
Par exemple, ce public-là, mais aussi les transporteurs, les pêcheurs, pour qui c'est impactant immédiatement, eux, c'est leur revenu qui baisse immédiatement, et les agriculteurs. Mais ça, c'est au gouvernement de décider. Voilà, moi je...
Donc, ces taxes, ok, on n'aurait pas les moyens. Les aides, vous vous dites, attention, il faut aider et vraiment cibler ceux qui en ont le plus besoin. Et puis, vous proposez, avec les autres distributeurs, de suspendre temporairement la collecte des certificats d'économie d'énergie. Alors, on se souvient, ces certificats d'énergie, c'est arrivé il y a quelques mois. C'est une manière de contribuer la transition énergétique.
Ça existe depuis un certain temps, mais ça a été revalorisé au 1er janvier.
15 à 20 centimes par litre. C'est pas une taxe, c'est vous qui en quelque sorte êtes vos propres collecteurs d'impôts.
Exactement.
C'est-à-dire vous mettez de côté ces centimes. Pourquoi vous le faites pas tout de suite de arrêter ces 15 centimes? Vous pourriez tout de suite faire baisser, non?
Ah ben non, mais nous on n'a pas la main sur ce sujet-là. On est obligé aujourd'hui de respecter les textes et de collecter ça. Donc il faudrait une décision.
Il me semble quand je vérifie qu'il y a une obligation sur 5 ans. Ça veut dire qu'effectivement au bout des 5 ans vous devrez avoir récolté tant. Mais vous pourriez aussi, vous, en quelque sorte, dire, on récoltera un peu plus après, mais là, dans ce temps de disette et de crise, on baisse de 15 centimes notre litre.
C'est quelque part notre proposition, c'est de suspendre ça provisoirement. Mais attendez, là, on en discute, mais nous, le retour qu'on a eu hier, c'est que c'est déjà négatif, que le gouvernement...
Il ne veut pas.
Il n'est pas d'accord avec cette contre-proposition. Donc, voilà.
Ils disent, on a un objectif, s'assurer, voilà ce que Maud Bréjon a déclaré hier, s'assurer que les baisses seront répercutées aussi vite que les hausses. Ils continuent à vous dire que ça n'est pas normal que le prix soit aussi élevé.
C'est l'explication qu'on vient de faire il y a un instant. Des stocks qui se réduisent, doucement parce que les gens consomment moins qu'au début de la crise. Par contre, je répète devant vous mon engagement que je dis depuis des semaines chez Coopérative U. On s'engage à répercuter au plus vite les baisses comme on avait répercuté les hausses parce qu'on achète au quotidien. On achète au quotidien.
Dominique Schelcher, on va revenir aussi sur les conséquences. La croissance de la France a été revue à la baisse. L'inflation va sans doute remonter et ce sera sûrement visible dans vos propres rayons. Mais il y a aussi deux questions que je voudrais vous poser encore sur l'essence. L'une, sur le tournant. Vous aviez situé, je me souviens, au-delà de 6 semaines, oui. C'est ce que vous aviez déclaré, oui, au début de la crise, au-delà de 6 semaines, ça va être de plus en plus difficile, à la fois sur les prix et sur la disponibilité. On y est, ça fait 6 semaines. Est-ce que ça veut dire que désormais, en plus de la question des prix, et notamment de la spéculation, de la hausse des prix, peut désormais surgir un problème de pénurie ?
À date, il n'y a pas de pénurie. Il y a des ruptures ponctuelles. Il faut faire la différence entre pénurie, donc non accès à la marchandise, et rupture ponctuelle, parce qu'à un moment, il y a une station qui a beaucoup vendu. Donc, il n'y a pas de problème de pénurie ce matin. Mais plus le conflit va durer, plus les chaînes logistiques mondiales sont perturbées, plus il y a un risque à terme d'avoir une perturbation. Et M. Pouyanet, patron de Total Energy, l'a dit lui-même, le kérosène, mais pas que le kérosène, le diesel aussi. Pourquoi le diesel ? Parce que le diesel, on ne le fabrique pas en France, on l'importe. Et dès que, dans une période où les chaînes logistiques sont perturbées, où on est dépendant d'une importation, c'est là que ça peut, à terme, coincer. On n'en est pas encore là, mais plus le conflit va durer, plus il y aura des questions, et là, il faudra interroger.
On est dans ce tournant. On est dans ce moment où vous dites attention.
On y est. Et ce que j'observe ce matin, mais là, c'est les spécialistes qui le diront, on a l'air de partir dans un conflit qui dure sans résolution directe, avec un prix du baril élevé et des perturbations logistiques. Et je vais vous donner un exemple.
C'est le transport. Hein.
C'est le transport. Quelle est la partie du monde où c'est le plus compliqué ? En Asie. En Asie, aujourd'hui, il y a des rationnements de carburant. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Asie se bat pour avoir des pétroliers. Et donc, parfois, il y a des pétroliers qui sont déroutés vers l'Asie et ce pétrolier n'arrive pas en Europe. Et donc, demain, si ça s'amplifie, ça peut...
On sera obligé d'arriver à une logique de rationnement ?
On n'en est pas du tout là. Mais la question est là et il faut continuer à observer et à surveiller ça de très près si le conflit dure.
Ce matin, j'avais une auditrice sur RMC, Christelle, qui m'appelait du Loiret et qui fait de nombreux kilomètres tous les jours pour aller travailler. Elle dit on est au bord d'un burn-out de gasoil. Voilà ce qu'elle avait comme expression. Elle avait été gilet jaune. Elle dit aujourd'hui, honnêtement, moi, je vais passer à une forme quasiment, elle dit, je vais me mettre en arrêt maladie, cette fameuse expression, mais au fond, elle dit, parce que je n'ai plus les moyens d'aller travailler, je ne vais pas payer pour aller bosser. Elle dit, ce ne sera peut-être pas les gilets jaunes, ce sera peut-être une grande épidémie d'arrêt maladie parce qu'on ne pourra pas aller travailler. Est-ce que ça, vous commencez à le ressentir, y compris parce que vous êtes aux avant-postes aussi de la vie des Français et de leur consommation ?
Je sens une énorme résignation et une adaptation quotidienne. Les Français sont dans l'adaptation autour d'abord de la voiture et du carburant. Si la question, par exemple, il n'y a pas d'impact visible vraiment dans le caddie. Mais par contre, l'utilisation de la voiture, je fais un trajet en moins, j'emmène plusieurs enfants à l'école, je ne vais pas au restaurant en voiture et je me pose déjà des questions sur mes vacances en été en voiture. Ça, on est complètement dedans. Mais je sens plutôt une sorte de résignation, de dire encore une crise qui nous tombe sur la tête et on trouve les meilleures solutions pour y faire face. On est là-dedans pour l'instant.
Est-ce que vous anticipez un retour de l'inflation ?
Actuellement, nous répercutons dans nos magasins sur la partie alimentaire uniquement le résultat des dernières négociations qui se sont achevées
au 1er mars
et qui nous sortaient une très faible inflation entre 0 et 1%. Et ça n'est que ça. Il n'y a, à date d'aujourd'hui, aucun impact de cette guerre en Iran sur les prix de l'alimentation. Mais des questions se posent, encore une fois, s'ils durent à long terme. Pourquoi ? Parce qu'au-delà du carburant, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du plastique. Les billes de plastique qui permettent de fabriquer nos emballages, nos barquettes pour la boucherie, le plastique qui emballe, etc., vient beaucoup de cette région du monde. Et donc là, on a des premiers signaux de quelques industriels de dire, attention, il y a le carburant, il y a le plastique, ça nous pose un problème.
Est-ce qu'ils vont, à ce moment-là, refrapper à la porte et dire, nous sommes obligés de renégocier ? Je précise bien, pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, en effet, habituellement, une fois par an, vous décidez des prix. Et dans
absolument
ce cas-là, ça permet une forme de stabilité tout au long de l'année. il est prévu par la loi une exception possible si vraiment ce n'est pas tenable. C'est-à-dire, il se pourrait que dans un mois, dans deux mois, si on s'installe dans un conflit durable, ils reviennent vous voir et qu'ils vous disent, voilà, moi, le prix de ma bouteille, le prix de mon emballage, ils ont trop augmenté, voire même le prix de mon engrais pour ceux qui font la matière première. Et qu'ils vous disent, on rouvre les négos. Moi, je peux plus vous le vendre au prix où on avait signé le contrat. Ouais. Je suis obligé d'augmenter les prix. Est-ce qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui qui commencent à vous dire ça coince?
Il y a les premiers coups de téléphone, mais pas de demandes massives comme en 2022 au moment du début de la guerre en Ukraine. Donc, je pense que tout le monde est en train d'essayer de chercher des solutions. Même nous, les camions tous les jours qui livrent nos magasins, ça nous coûte plus cher en carburant. Mais pour l'instant, on l'absorbe, on l'assume, on le prend en charge. La question, c'est si ça dure. Sur ces points, il y a une alerte. Je relativise un peu le sujet de l'engrais parce que, heureusement, beaucoup d'agriculteurs français s'étaient couverts pour cette année, parfois même sur deux ans. Pas tous, pas tous. Ceux qui sont couverts, ça va aller pour cette année. Par contre, l'année prochaine...
Ils seront ouverts, vos magasins, le 1er mai ou pas?
Ben non.
Non?
Ben non.
Il n'en a jamais été question.
Il n'en a jamais
lorsque
été question.
Lorsque la CGT disait que l'un des motifs d'opposition à ce projet du gouvernement, c'était de dire que ça allait vous permettre à tous d'ouvrir.
Mais nous, on n'a jamais, chez Coopérative U, été des défenseurs de cette ouverture-là. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que nos collaborateurs puissent se reposer. Et on n'a jamais, nous, demandé l'ouverture du 1er mai. Par contre, que les boulangers, que les fleuristes, mais de manière très ciblée, pour que derrière, il n'y ait pas de sujet de concurrence non plus, que eux puissent ouvrir s'ils le veulent, eux-mêmes, sans collaborateur. Pourquoi pas? Mais nous, on ne le réclame pas, on ne le souhaite pas, et on est content un jour que...
De pouvoir souffler.
Qu'on puisse souffler, absolument.
Merci beaucoup, Dominique Schelcher, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes donc le président de Coopérative U, tous les magasins U. Vous le dites, ce décret qui a été évoqué par le gouvernement, vous n'y croyez pas, vous pensez qu'il n'arrivera pas, et de toute façon, il serait injuste, inapplicable et illégal. Voilà ce que vous nous dites. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup qui revient à sa façon sur l'actualité.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité était Dominique Schelcher, le patron de la coopérative U. Il est resté avec nous. Rebonjour Dominique Schelcher.
Bonjour.
Et nous avons bien sûr parlé du prix des carburants. Bruno Le Maire voulait réagir. Bonjour.
Mais oui, bonjour à Pauline, bonjour à Dominique Schelcher que j'ai écouté attentivement. Mais il a raison, le Dominique. Faut que l'État baisse les taxes sur les carburants. Faut pas se laisser endormir, Dominique, par les gens de Bercy qui disent ouin ouin ouin, on n'a plus d'argent dans les caisses. Moi, si je m'étais arrêté à ce micro détail de la dette, franchement, j'aurais jamais rien fait, hein, quand j'étais ministre de l'économie. Hein. Souvenez-vous que moi j'arrosais tout le monde, hein. Les commerces, les intermittents, votre grand-mère, votre chien, Royal au bar, le nono. Hein, il pleuvait des bifetons, j'étais un rappeur dans un club de striptease. Faut apprendre à lâcher la thune.
Ouais, lâcher la thune, ouais, bien sûr. Merci, monsieur le maire. Sans plus attendre, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oh oui, bonjour, mon Apolline. Jordan Bardella, sa princesse, Maria Carolina Bourbon des deux Siciles, moi j'ai la mienne. C'est vous. Oh, oh oui, vous êtes Maria Apollina de Malherbe des deux Sars.
Voilà.
Oui, là, c'est moins glamour que la Sicile. Écoutez, si vous le permettez, votre Altesse Apollina, si vous le permettez, je voudrais passer une annonce. Oui. En tant qu'amateur d'objets anciens, je recherche un objet du passé, très difficile à trouver. Un totem de station-service qui affiche l'essence à moins de 1,70€. Ah. Oh, oui. Hein, monsieur Schelcher, mais où peut-on trouver ça? J'adore les jeux de mots.
Allez, c'est parti politique.
C'est parti politique. Les catholiques américains en veulent à Donald Trump d'avoir publié une image où il se prend pour Jésus. Ben oui, ça aurait été quand même plus utile qu'il se prenne pour Moïse. Au moins, il ouvrait la mer en deux et il libérait le détroit d'Hormuz. Oh,
merci beaucoup Stéphane. Dans une lettre cinglante adressée au tribunal, Claude Guéant assure que dans le dossier libyen, il n'a fait que suivre les instructions de Nicolas Sarkozy. Monsieur Nicolas Sarkozy est avec nous, bonjour.
Quelle indignité, ma pujadas. Moi, donner des instructions? Mais alors, j'ai jamais rien donné de ma vie. On dit que je donnais des conférences à 5000. Je les donnais pas, je les vendais. Et d'ailleurs, tous mes clients pourraient témoigner. Combien de fois j'ai entendu, eh bien, Sarkozy, c'est pas donné. C'est vous dire.
Il dit que vous lui avez donné des instructions.
Non, mais les instructions, c'est les instructions, c'est pas mon truc. Moi, c'est les juges d'instruction, mon truc. Mon truc à moi. Voilà, c'est
enfin,
tout.
Quand même, c'est un témoignage accablant. Vous risquez de retourner en prison, hein.
Non, mais écoutez, excusez-moi. Je sais que la mode en ce moment, c'est d'être en cabane. Mais il n'y a pas marqué Vianney ici.
Ah oui.
Hein, d'accord. Marquez Vianney quelque part. Il paraît qu'il va écrire des chansons depuis sa cabane. Finalement, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, moi aussi. Que j'aille en cabane. Mais si je vais en cabane, derrière, je serai inspiré, je sors un disque, l'album d'un prisonnier.
Voilà.
Avec bien sûr une petite chanson sur Guéant et Hortefeux, ça mange pas de pain. Et ce serait, c'est pas vous, c'est vous. Pas moi, c'est pas moi. C'est vous, c'est pas moi, c'est vous. Il y a moyen de prendre un petit billet avec ça.
Merci beaucoup, monsieur Sarkozy. Après l'échec des négociations au Pakistan entre Américains et Iraniens, les Américains ont déjà entamé un blocus du détroit d'Hormuz qui était bloqué par les Iraniens. Donc pour y voir plus clair, on est avec le consultant militaire de BFM TV, vous êtes où? Celui qui est à l'antenne 24 heures sur 24, le général Félix Randy. Où est-ce qu'il est?
C'est une situation complexe. Et je vais vous simplifier au maximum pour vos auditeurs. Et je vais simplifier aussi pour moi, pour essayer de comprendre ce que je raconte déjà. Parce que moi-même, j'ai du mal à me suivre. Hein, parce que pour tout vous dire, la marine, moi je suis, on parle des bateaux depuis 47 jours, oui. Et moi je suis général de l'armée de terre.
Ah oui, ah ben c'est alors.
Donc c'est vous dire si je flotte.
Oui.
Hein. Alors, j'ai préparé une carte, bien sûr. Enfin, j'avais préparé une carte. Mais bon, ma femme est partie à la Kangoo ce matin, et donc là, bon, bref, j'ai plus la carte. Oui, parce que moi, j'ai la facilité à commander les hommes, et ma femme, c'est une autre paire de manches.
Alors, dis-nous quand même ce qui se passe dans le détroit d'Hormuz.
Ce qui déjà, qu'il faut comprendre, c'est que les bateaux. Il s'agit de bateaux. Le théâtre d'opération des bateaux, c'est l'eau. Tout ce qui est maritime, l'eau, la mer, les océans, tout ce qui est naval, l'eau minérale, l'eau plate, pas gazeuse, les bateaux. Donc ça c'était grand 1, les bateaux. Grand 2, oui parce que je suis très pédagogue, grand 2, où qui sont les bateaux. Et en 3, bien sûr, en 3, parce que c'est construit, en 3 nous verrons quoi qu'ils font les bateaux. Alors, j'ai pas la carte, mais quand même... Bien sûr, j'ai amené ma baguette. J'ai amené ma baguette. Mais oui, c'est important. La baguette, c'est important. Oui, parce qu'il y a la tradie. La baguette tradie. Moi, j'ai la police tradie.
Merci, voilà.
Alors, oui, parce que je vous explique, parce que je suis très pédagogue. Alors, je vais utiliser une métaphore. Parce que les bateaux, c'est comme. C'est comme dans ce studio, chacun a sa mission.
Oui.
Vous avez des gros bateaux et des petits bateaux. C'est pas le même bateau. Il y en a des gros et des petits. Par exemple, vous avez le Abraham USS Texier.
Oui.
C'est le plus gros bateau. C'est le plus grand. C'est le porte-avions.
Ah, d'accord.
Alors ici, vous avez également là-bas, vous avez le Neumann. Alors, oui. Ça, c'est un très beau destroyer. Très beau destroyer. On voit bien là, tu vois. C'est un très beau destroyer. Alors c'est une conception quand même assez ancienne. Ça a été fabriqué.
C'est quoi cette baguette?
Ça a été fabriqué dans les années 60. C'est pas du tout. C'est une baguette de général d'armée qui vendait effectivement dans les rayons pêche des Décathlon. Mais bon, c'est totalement le hasard. Alors, sur le Neumann, qui est un très beau destroyer, on voit que c'est un beau bateau, ça marche bien. Il y a quand même des petits points de corrosion. Il y a des petits points de rouille, mais c'est increvable. Ça fait du bon boulot.
Voilà,
alors, après, bien sûr, on a la très belle frégate. Hein, une très belle frégate, la Apolline de Malherbe.
Ah oui, frégate, bien sûr.
C'est pas sympa. Ça va sur tous les terrains d'opération. Hein. Chez BFM, chez RMC, dans les couloirs, la machine à café, ça sait tout faire. Les enfants, ça fait tout. Alors, on a également un bateau de pavillon étranger, le Stéphane Bureau. Pavillon étranger, Canada. On ne sait pas ce qu'il fout là. Il mouille ici, il mouille là-bas. On ne sait pas ce qu'il fout ici. On a également... Alors, on a un bateau ravitailleur. On a le Chelcher. Il y a du mal à ravitailler. Et comme son nom l'indique, c'est cher. Et puis alors on a également On a...
La baguette est coincée.
Dis-moi, Pélisse, tradique et coincée. Alors, on a pour terminer, on a une petite vedette peu rapide. On a des vedettes rapides. On a la petite vedette, il y a la petite vedette, le demain, j'ai la petite.
Ah oui, bien
et
sûr.
Puis, il y a la grosse vedette, il y a le Canteloup. Alors, il y a beaucoup de chevaux, 400 chevaux, ah, ça oui. coûte un fric fou, on la sort pas tous les jours. Hein, voilà. Bon, je vous laisse, parce qu'il faut que j'ai retrouvé mes hommes de la 7e compagnie.
Merci beaucoup, Général Pélisse Rendy. Il fait la Canteloup tous les jours, 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Merci, Dominique Schellcher, d'être resté avec nous dans un instant. Les GG, nos programmes, Alain.
Eh bien, dans les grandes gueules, nous reviendrons sur la proposition des distributeurs. Ils disent au gouvernement, arrêtez avec votre usine à gaz. Il faut plutôt s'en prendre au certificat d'économie d'énergie, les CE, qui représentent 15 à 20 centimes par litre. Est-ce qu'ils ont raison? Emmanuel Macron, le président de la République, il va promouvoir la journée de déconnexion et de la lecture pour les jeunes. Et puis, on reparlera aussi de la suppression des ZFE, ainsi que de ces jeunes qui ne veulent pas prendre d'emploi s'il n'y a pas de journée de télétravail. À tout de suite au 32-16.